Europe 1.
Nous sommes le lundi 25 mars, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une, 2000 militaires supplémentaires déployés sur le terrain dès ce matin. La France en alerte urgence. Attentat depuis hier soir, c'est le plus haut niveau de vigilance sur l'échelle du risque. Après l'attaque de Moscou, qualifiée de Bataclan russe. Sécurité particulièrement renforcée autour des collèges et lycées de la région parisienne et des Hauts-de-France. Après une série de menaces proférées depuis vendredi et encore ce week-end. À Moscou, lui, le bilan s'est encore alourdi. Trois jours après l'attentat du Crocus City Hall, au moins 137 morts. Et les quatre terroristes présumés ont été incarcérés. Nous parlerons aussi de la surnotation des copies au brevet des collèges et au bac. Ça n'est pas une légende. Témoignage édifiant de plusieurs professeurs dans ce journal.
Europe 1.
Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le troisième et dernier barreau sur l'échelle du risque est donc atteint. La France, placée depuis hier soir en vigilance urgence attentat, soit le niveau le plus élevé. Décision de l'exécutif après un conseil de sécurité à l'Elysée. Conséquence de l'attaque de Moscou, revendiquée par l'État islamique. Le gouvernement ne veut pas prendre le moindre risque à 4 mois des Jeux Olympiques. Jean-Baptiste Marty, ça passe notamment par une présence militaire renforcée sur le terrain.
7000 militaires sentinelles vont être déployés partout en France contre 5000 jusqu'alors. Ils ont pour mission de sécuriser les lieux à forte fréquentation comme les centres commerciaux, les transports en commun, mais aussi les écoles, établissements scolaires d'ailleurs visés ces derniers jours par des menaces d'attentat après un piratage des serveurs. Autre changement, ce niveau urgence attentat permet aux autorités de diffuser plus facilement des informations. Les sites institutionnels ou encore les médias peuvent être sollicités pour prévenir les Français en cas d'urgence ou bien d'expliquer les bons gestes à avoir en cas d'attaque terroriste. Alors ce niveau d'alerte maximale avait déjà été déclenché en octobre dernier après l'attentat survenu dans un lycée à Arras. Urgence attentat avait finalement été rétrogradé au niveau inférieur en janvier dernier. Une menace terroriste donc plus que jamais présente en France à quelques mois du début des Jeux Olympiques.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.
Sécurité renforcée également autour des établissements scolaires avec une attention toute particulière pour se situer en région parisienne et dans les Hauts-de-France.
Plus de 150 collèges et lycées cibles d'une cyberattaque depuis vendredi. Intrusion dans les espaces numériques souvent accompagnée d'une menace d'attentat. La députée Renaissance Violette Spielboud était l'invitée de Guillaume Lariche dans Europe 1 Nuit. Elle explique les mesures prises dans l'Académie de Lille.
Dans l'Académie de Lille, où une douzaine d'établissements sont concernés, il y a un déploiement de la police aux abords de chacun des établissements. Les espaces numériques de travail ont été fermés pour éviter la propagation de messages dangereux, inquiétants, et puis pour faciliter les recherches suite aux plaintes. Et puis, la rectrice de l'Académie de Lille est très mobilisée avec le président de la région dans les lycées pour être aux côtés des équipes enseignantes. C'est mobilisation générale, donc service de police devant tous les établissements menacés. Et puis, une très, très grande vigilance. On ne peut pas se permettre un faux pas.
La députée Renaissance du Nord, Violette Spielboud, au micro de Guillaume Lariche dans Europe 1 Nuit. À propos de l'espace numérique de travail évoqué par Violette Spielboud, il est suspendu jusqu'à nouvel ordre dans les académies concernées par les piratages et les menaces.
La France en alerte terroriste maximale. À Moscou, le bilan de l'attaque du Crocus City Hall de vendredi continue de s'alourdir.
Au moins 137 morts, 182 blessés, dont une centaine toujours hospitalisés. Bilan toujours provisoire bien sûr. Sur place, les recherches se poursuivent dans les décombres de cet immense centre commercial, des secouristes, mais aussi des civils à la recherche de proches dont ils sont sans nouvelles. Moscou continue d'accuser Kiev d'être derrière cet attentat revendiqué officiellement par l'État islamique. Les quatre terroristes présumés ont comparu une première fois devant un tribunal. Trois d'entre eux ont plaidé coupables hier, Martin Lange.
Oui, les quatre assaillants présumés ont été présentés à un tribunal de Moscou hier soir. Des vidéos de leur audience ont été diffusées. Quatre hommes se succèdent dans la cage de verre réservée aux accusés. Menottés, le visage tuméfié, l'un des suspects porte un bandage à l'oreille, tandis qu'un autre est allongé dans une chaise roulante, incapable d'ouvrir les yeux. L'attaque du Crocus City Hall a été revendiquée par l'État islamique dès vendredi. Mais le Kremlin refuse d'évoquer cette piste, préférant pointer du doigt l'Ukraine. Un moyen de masquer les failles du renseignement, selon Vyacheslav Aviutsky, spécialiste des relations internationales.
Pointer du doigt l'État islamique, ça va être aussi un aveu d'échec pour M. Poutine. C'est un échec flagrant, c'est l'échec de ses services spéciaux, c'est l'échec de la force publique qui n'ont pas vu cet attentat à venir.
D'autant que les États-Unis assurent avoir prévenu les Russes au début du mois de mars qu'un projet d'attentat pourrait viser Moscou. Les quatre assaillants présumés ont été placés en détention provisoire jusqu'au 22 mai. Dans l'attente de leur procès, ils encourent la prison à perpétuité.
Martin Lange. Et puis juste avant de s'envoler pour un déplacement de deux jours en Guyane, Emmanuel Macron a renouvelé son avertissement au Premier ministre israélien. Pas d'action militaire sur Rafah et surtout pas de déplacement de population. Tout transfert forcé serait constitutif d'un crime de guerre selon le président français.
Au Sénégal, toujours l'incertitude autour du résultat de l'élection présidentielle d'hier.
Les médias et les réseaux sociaux placent le candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye largement en tête du premier tour devant le candidat du pouvoir en place Amadou Ba. Résultat définitif attendu dans la semaine, mais la présidence sénégalaise assure qu'un second tour sera bien nécessaire.
Nous sommes le 25 mars, il y a un an, à Sainte-Soline, les opposants aux méga-bassines étaient extrêmement mobilisés au projet de réserve d'eau. C'est toujours le cas aujourd'hui.
Les manifestations anniversaires qui ont commencé vendredi et doivent se prolonger aujourd'hui dans les Deux-Sèvres, un collectif militant annonce qu'il va bientôt porter plainte contre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour avoir menti sous serment lors de la commission d'enquête parlementaire sur les violences commises l'an dernier.
Et puis la fin d'une pratique devenue courante aux examens de fin d'année scolaire, la surnotation des copies, notamment au brevet des collèges. Témoignage exceptionnel de professeurs sur Europe 1 ce matin.
Et le Premier ministre l'a promis, fini les correctifs académiques. Vous parliez du brevet des collèges, Dimitri, c'est aussi valable pour le bac, vous allez l'entendre. De plus 1 à plus 6 points en fonction des académies. Dans certaines régions, un 4 sur 20 réel se transforme en 10 sur 20 et ainsi de suite. But de l'opération, ne pas stigmatiser des départements où les élèves en difficulté sont majoritaires. Anatomie d'un mensonge, Louise Salé.
L'Académie de Versailles gonfle par exemple son taux de réussite au brevet de 5 points. En 2023, il passe de 85 à 90% après redressement des notes par le rectorat. Joseph Vergniaud y enseigne l'histoire géo au collège.
Sur 36 copies effectives que j'ai corrigées, j'ai 11 élèves qui n'avaient même pas écrit un seul mot dans le développement construit. Et néanmoins, dans le lot, c'est évident qu'il y en a qui ont eu le brevet, voire qui ont pu l'avoir avec mention. Beaucoup vont vraiment avoir de grosses difficultés en seconde, quoi.
Dans l'Académie de Créteil, les résultats augmentent d'environ 6 points au brevet. Et pour cette prof d'économie de Seine-Saint-Denis qui témoigne sous couvert d'anonymat, cette surnotation se poursuit jusqu'au bac.
Lorsque l'on corrige les copies du bac, on va valoriser un mot-clé, même si la réponse est fausse. Il y a un sentiment d'injustice, de non-valorisation de notre travail et aussi du travail des élèves. Et sur le contrôle continu, on va être convoqué ou non et on va nous demander de remonter les notes. Une chose est sûre, c'est qu'à Créteil, c'est particulièrement marqué. On a un niveau qui est de plus en plus faible, mais personne ne dit son nom.
Pour elle, l'école est devenue une machine à faire passer les élèves au niveau supérieur et non plus à les faire réussir.
Et Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1, et un rappel, les épreuves du brevet des collèges auront lieu le 1er et le 2 juillet.
Direction Londres à présent, où l'annonce du cancer de la princesse Kate continue de provoquer beaucoup de réactions.
Elle l'a annoncé elle-même dans un court message vidéo très émouvant. La royauté britannique est déjà affectée par le cancer dont souffre le roi Charles III. Dans les deux cas, la famille royale s'est montrée aussi transparente que possible sur l'état de santé de ses membres, transparence contrainte pour couper court à la rumeur. Qu'en pensent les Britanniques? Reportage Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres.
« Leave them alone, laissez-les tranquilles », réagit vivement Andrea. Elle hésite même à répondre au micro quand on lui parle du couple princier.
« Je pense qu'il mérite un peu d'intimité. Nous n'avons pas besoin de tout savoir sur la vie privée de chacun. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne les laissent pas tranquilles. »
Elle, qui s'affiche ouvertement royaliste, regrette que Kate ait été contrainte de s'exprimer publiquement pour faire taire les rumeurs. Un avis que partage Paul également.
« Ce n'est pas parce qu'ils ont une position de privilégié qu'on doit leur demander des comptes chaque minute de leur vie. »
Après cette transparence inédite, il apparaît bien difficile pour la famille royale de se murer à nouveau dans le silence. Ancienne journaliste, Sarah estime même qu'elle devrait communiquer encore davantage.
Ils vivent une vie complètement différente de la nôtre et nous avons du mal à appréhender. Nous payons des millions de livres de taxes pour eux et nous vivons dans des mondes complètement différents. Ils devraient être plus transparents, c'est le prix à payer.
Une transparence qui garde pour l'instant ses limites. La famille royale n'a apporté aucune précision sur l'état de santé de Kate ni sur la nature de son cancer. Londres, Wilfried de Villers.
Enfin, match à sensation pour clore la 19e journée du top 14 de rugby entre Bordeaux-Bègle et Toulouse. Les Bordelais, vainqueurs 31 à 28, hier soir, remontent à la 3e place.
Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito écho.
Un rein de porc dans un corps d'humain, grande première la semaine dernière aux États-Unis où des chirurgiens ont réussi une xénogreffe inédite. Les xénogreffes, c'est transplantation d'organes animaux à un humain et qui pourrait permettre de remédier à la pénurie de dons d'organes. Gagne il y a 11 000 patients en liste d'attente en France. On va en parler avec Nicolas Bouzou. Juste après l'invité actu d'Europe 1 Matin, nous serons en ligne avec la Guyane. Nous rejoindrons Yvanne Goua, la présidente de l'association Trop Violence, alors qu'Emmanuel Macron se rend dans le département guyanais ce jour. 7h10 sur Europe 1.
7h, 9h.
Europe 1 Matin.
Vous écoutez Europe 1, il est 7h13. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la porte-parole de l'association guyanaise Trop Violence.
Trop Violence, ANS hein, en terminaison, parce que c'est du créole. Bonjour Yvanne Goua.
Bonjour à tout le monde.
Bienvenue sur Europe 1. Alors votre association, Yvanne Goua, milite contre toutes les formes de violence en Guyane. La Guyane où se rend aujourd'hui Emmanuel Macron. Alors il y a en Guyane de très très gros problèmes de violence. Ils vont d'ailleurs trôner ces problèmes tout en haut de la pile des sujets qu'abordera le président de la République. Pouvez-vous, Yvanne Goua, d'abord raconter aux auditeurs d'Europe 1 cette insécurité qui pourrit au quotidien la vie des Guyanais?
En fait, aujourd'hui, la délinquance, l'insécurité, c'est une résultante pour nous, du manque de développement du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es un jeune, on vous avait dit, hein, 50% de la population a moins de 25 ans, aujourd'hui, en fait, faire la voler, braquer, en fait, est une solution, est un travail. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a aussi les frontières qui sont ouvertes. Donc, il y a le sujet de l'immigration, mais on va mettre ça à part parce que c'est pas tous les immigrés qui sont des braqueurs, d'accord ? C'est pas ce qu'on dit. Mais en tout cas, la frontière est ouverte, donc les armes circulent, la drogue circule et surtout la violence circule. Donc aujourd'hui, on ne peut pas sortir sur notre territoire le soir tranquillement, aller boire un verre, aller au restaurant, sans risquer, sans avoir peur. D'être braqué, donc de voir venir des gens cagoulés, armés, et venir vous menacer. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont même dans leur rôle hein, de développement économique, dans leur rôle de fournir du travail, eh ben, sont pas en sécurité parce que dès que tu es repéré par les délinquants comme quelqu'un qui peut faire de l'argent, ben, t'es sujet à te faire braquer. Un chef d'entreprise dans l'ouest de la Guyane, qu'on a eu à accompagner de l'Ouest guyanais. Aujourd'hui, 15 personnes cagoulées, armées, débarquent chez lui. Il a 16 ans, il a son enfant, 16 enfants, une petite et un grand d'à peu près 14 ans, sa femme, et ils sont mis au sol, ils sont frappés, ils sont traumatisés encore à ce jour. Ils sont frappés, ils sont violentés pour qu'on puisse accéder, parce que malheureusement pour lui, son domicile, c'est aussi son entreprise. Donc, pour accéder au bureau, pour accéder, en plus, un chef d'entreprise dans le BTP, donc il n'a pas forcément beaucoup de liquidités sur lui, en fait. Mais on est venu braquer, voler le matériel, on est venu prendre, comme c'est du BTP, donc prendre ses gros camions, là, pour faire ses chantiers. Et cela, aujourd'hui, c'est ce que vivent la plupart des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, les commerçants qui donnent à manger à la population sont systématiquement braqués et ils ont demandé au préfet même, pour leur sécurité, à fermer plus tôt le soir.
Ouais, c'est absolument effarant ce que vous racontez, Yvanne Goua. Il faut noter que la Guyane, c'est aussi le territoire le plus meurtrier de France. Le taux d'homicide y est 13 fois plus élevé que la moyenne nationale. Comment ça se fait, Yvanne Goua ?
On a une guerre qui se fait à l'intérieur de notre territoire qui concerne l'orpaillage illégal. Ça se fait sous nos yeux, à côté de nous, les villages amérindiens, les villages bouchinangués ou même Saint-Laurent, Saint-Georges de l'Oyapock, des communes françaises, eh ben, ça se passe dans leurs communes, ça se passe aux côtés de la population. Et donc, dans les homicides, il y a la moitié qui sont des homicides qui ont lieu en fait en forêt, règlement de compte de Garienne Perros. Et puis, à l'autre moitié, en plein centre-ville, en plein jour, règlement de compte des travers de l'orpaillage illégal, donc des bandes, des gangs, et au travers de problématiques, soit de drogue, soit de criminalité.
Alors la drogue, justement, on va en parler, parce qu'on estime que 20% de la cocaïne consommée dans l'Hexagone arrive par avion de Guyane. On dit que c'est à peu près 100 kilos par jour, à raison de 50 passeurs par vol. C'est absolument énorme. Le président Emmanuel Macron va d'ailleurs entamer sa visite à l'aéroport de Cayenne, où les autorités ont lancé depuis plus d'un an une opération 100% contrôle pour traquer ce qu'on appelle les mules. Comment ça se passe, cette opération, Yvanne Goua ?
Alors une mule, c'est quelqu'un qui transporte de la cocaïne. Donc elle peut le transporter aussi bien dans ses valises, aussi bien dans sa perruque si c'est une femme, ou dans ses sous-vêtements, mais aussi en Guyane, la spécificité, c'est qu'elle peut aussi l'ingérer. Enfin, ce n'est pas une spécificité guyanaise, puisque tous les pays frontaliers avec la drogue ont aussi des mules qui ingèrent des boulettes. Même on s'amuse à les mettre maintenant au niveau des enfants, dans les couches, enfin, on voit tout et n'importe quoi. Mais n'empêche que les bouletteux sur lesquels se focalise l'État là, ces derniers temps avec leur 100% contrôle, les bouletteux sont nombreux, mais transportent peu de cocaïne. Quand vous allez trouver, par exemple, une saisie au large de la Guadeloupe la semaine dernière de 8 tonnes de cocaïne, en Guyane, en fait, ben, ce jeu de mules a bon jeu de prospérer, puisque derrière, en fait, on ne s'occupe pas, on ne s'attache pas à démanteler les têtes de réseau et à démanteler ceux qui vont faire rentrer la cocaïne sur le territoire pour pouvoir charger les mules. Parce qu'une mule, c'est un transporteur de cocaïne. Et puis, il y a le trafiquant qui, lui, va faire rentrer la cocaïne pour pouvoir charger ces nombreuses mules.
Vous dites que les volumes de cocaïne qu'on saisit à l'aéroport sont finalement dérisoires par rapport à ce qui passe à côté, notamment par la mer ?
Voilà, c'est cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bateaux, le grand port, surtout les conteneurs, il n'y a rien, quoi. Une fois, par hasard, ils ont eu un cas où apparemment un colis est tombé de l'un des bateaux là, du CNES, là, de la fusée Ariane. Par hasard, le truc est tombé, donc on a su que, voilà, mais ça faisait combien de temps ou combien de colis sont passés par ne serait-ce que par exemple le CNES, qui sont les salir, hein, est forcément sujet aujourd'hui à ce que les trafiquants puissent trouver le moyen de passer par là. Ils ont intercepté et interpellé 10 policiers de la police nationale de Guyane qui participaient au trafic.
Ah oui.
10 fin 2023. On n'en entend plus parler. Donc, ils avaient même réussi à infiltrer la police nationale. Et là, on nous fait croire, avec le 100% contrôle, que c'est au niveau de l'aéroport que ça va se régler.
Oui, ahurissant. Un mot d'Emmanuel Macron pour terminer cet entretien, Ivan Goua, puisque c'est seulement sa deuxième visite en 7 ans en Guyane. Vous l'attendez de pied ferme, le président de la République ?
On l'attend de pied ferme, mais en même temps, on n'attend rien de lui. Par exemple, la cité judiciaire. Aujourd'hui, on est incapable de rendre une justice convenable, républicaine, soi-disant, parce qu'en fait, il n'y a pas les moyens, les outils, en fait, pour pouvoir le faire. Donc, dans les accords de Guyane, on demande une nouvelle cité judiciaire, parce qu'aujourd'hui, les bâtiments, les salles d'audience sont répartis un peu partout dans Cayenne et surtout ne sont pas suffisantes. La plus grande salle d'audience peut accueillir 25 personnes en Guyane. Donc, vous voyez un peu le truc. Nous avons demandé dans le plan d'urgence un centre pénitentiaire dans l'ouest guyanais. Bien sûr que ce n'est pas à nous, la population, de réclamer quand même des moyens pour nous mettre en prison. Surtout que, par contre, il s'est bien attaché à embêter tous les militants dans nous, hein, dans moi, Ivan Goua, condamné 2 fois juste par rapport au fait que je sois porte-parole de l'association et que pour mes propos tenus. Et aujourd'hui, c'est acharné sur les militants, mais le centre pénitentiaire de l'Ouest, toujours pas de première pierre posée 7 ans après les accords de Guyane. Il y a des solutions, il y a des propositions aussi bien de la société civile que des élus. Et Macron et le gouvernement ne fait rien pour pouvoir arranger les choses.
Merci beaucoup Ivan Goua, je rappelle que vous êtes la porte-parole de l'association guyanaise Trop Violence. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, bonne journée.
Bon réveil, il est 7h21.
7h-9h, Europe 1 matin.
Place à l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas.
On va parler ce matin avec vous de l'énorme potentiel de ce qu'on appelle les xénogreffes, ces greffes d'organes d'animaux qui sont pratiquées sur les humains.
Oui, alors je ne vous en parle pas par hasard. Hein. Jeudi dernier a eu lieu à Boston la greffe d'un rein de porc sur un patient qui souffrait d'insuffisance rénale chronique et chez qui une greffe classique n'avait pas donné de bons résultats. Alors, il faut savoir que le porc a une biologie relativement proche de la nôtre, mais les reins d'animaux doivent être génétiquement modifiés pour ne pas susciter de rejet. Ce greffon de porc a donc été modifié, vous savez, avec les ciseaux moléculaires, ceux qu'on appelle CRISPR, qui ont été découverts par Emmanuelle Charpentier, une Française qui a reçu le prix Nobel de chimie en 2020. Bon, c'est une très haute technologie médicale qui est pratiquée ici pour la première fois sur un humain avec un espoir de vie à peu près normal.
Vous nous dites que le besoin de xénogreffe est colossal.
Ah ouais, colossal. Je vous donne les chiffres compilés par le collectif Greffe Plus parce qu'ils sont édifiants. En 2023, Je parle de la France, 5500 greffes ont été réalisées pour une liste d'attente de près de 30 000 personnes.
Ah oui, 30 000. J'ai dit 11 000, j'étais loin du compte. Hein.
Parce que 30 000, c'est toutes les greffes, tous les besoins, et l'écart entre ce besoin et le nombre de greffes effectivement réalisées ne cesse d'augmenter chaque année. En fait, les dons d'organes sont faibles pour deux raisons. La première, c'est que peu de personnes peuvent être prélevées. Hein. Les donneurs doivent être décédés à l'hôpital après un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral ou un arrêt cardiaque. Ça représente moins de 1% des gens qui décèdent à l'hôpital. Et la deuxième raison, c'est que le taux de refus des familles des défunts est élevé, plus d'un tiers, et ça ne baisse pas. C'est vrai que ce sont des sujets qui sont peu évoqués entre vivants, et la famille d'un défunt, en général, n'ose pas prendre une telle décision. Bon, la situation est bloquée, hein, d'où l'appel à l'innovation technologique.
Et c'est donc un marché qui s'ouvre avec les xénogreffes.
Ah ouais, c'est la fantastique force du capitalisme, hein, quand l'humanité fait face à une difficulté. L'humanité y répond sous forme de science, d'innovation et d'entrepreneuriat. L'entreprise américaine qui a préparé le greffon utilisé jeudi dernier est située dans le Massachusetts. Elle s'appelle eGenesis. Dans le cas de la santé, il faut aussi évidemment des hôpitaux ultramodernes et des équipes de haut vol. Avec la réussite de jeudi, c'est un espoir pour des millions de personnes dans le monde qui attendent une greffe de rein, de poumon, de foie, de cœur, de peau. Et puis, en effet, de fantastiques opportunités pour les entreprises de biotechnologie. Les intérêts des uns et des autres se rejoignent.
Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas. À demain.
Europe 1.
Tous les jours sur Europe 1, Laurence Ferrari revient avec ses invités sur l'actualité de la journée. On parlera notamment ce soir du voyage d'Emmanuel Macron en Guyane.
Oui, rendez-vous dans Punchline. Rendez-vous d'information de la fin de journée pendant une heure avec Laurence Ferrari et ses invités. Eh bien, on décrypte, on analyse et on débat autour des grands sujets de la journée. Rendez-vous donc du lundi au jeudi de 18h à 19h sur Europe 1 avec Laurence Ferrari.
Bon réveil avec Europe 1, l'essentiel de l'actualité, le journal permanent. Christophe Lamarre.
La France placée en urgence. Attentat, le plus haut seuil de vigilance. 2000 militaires de l'opération Sentinelle vont venir renforcer les 5000 soldats déjà présents sur le terrain. Retour en classe sous très haute surveillance pour les élèves de la région parisienne et des Hauts-de-France. Plus de 150 collèges et lycées visés par un piratage informatique et des menaces d'attentat depuis vendredi et tout ce week-end. À Moscou, les 4 terroristes présumés ont été incarcérés après un premier procès en comparution immédiate. 3 d'entre eux ont plaidé coupables. Nouveau bilan 3 jours après l'attaque du Crocus City Hall, 137 morts et 182 blessés.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
On va parler cinéma aujourd'hui. Le 25 mars 1985, Amadeus remporte 8 Oscars à Hollywood. Le film de Miloš Forman raconte lors d'Autriche la rivalité supposée entre Mozart et un compositeur ayant vécu à la même époque, l'italien Salieri.
Oui, et c'est aussi un film sur le génie de Mozart. Sur ses partitions, le geste est sûr, jamais aucune rature. Comme si Mozart écrivait sous la dictée de Dieu. Cette perfection donne l'impression qu'en déplaçant juste une note, la structure de ses œuvres allait s'effondrer. Alors ce film est romancé, ce n'est pas une biographie, mais c'est un film magique. Voici un extrait. Sur son lit de mort, Mozart dicte son requiem à Salieri. Ce qui est faux, il n'a pas dicté à Salieri, qui ne lui a pas commandé ce requiem, mais on assiste aux coulisses de la composition.
Et en dessous, les violons en arpège. Gamme descendante en 8 notes et reprise à l'ostinato comme avant. Là, c'est tout. Est-ce que vous y êtes ?
Vous allez trop vite.
Est-ce que vous y êtes ?
Vous allez trop vite. Une seconde, je vous prie, une petite minute.
Bon, montrez-moi le tout, depuis le début.
Magnifique moment de cinéma. C'est aussi un Mozart grivois et désinvolte qui apparaît dans le film. Il a tout pour déplaire à Salieri, le compositeur officiel de la cour de l'empereur d'Autriche. Mais Salieri, sans aucun doute, avait conscience du génie de Mozart, explique sur Europe 1 le réalisateur Miloš Forman en 1984.
Salieri, c'était un type assez intelligent, avec assez de talent de reconnaître le génie de Mozart. Parce que pas beaucoup de gens ont vraiment reconnu le génie de Mozart. C'était Salieri, c'était Haydn, personne d'autre.
Mozart, c'est vrai, était célèbre quand il était enfant, enfant prodige adulé à travers l'Europe, mais il a eu plus de mal, adulte, à faire jouer sa musique. Et qu'ont pensé les spectateurs du film en 1985 ? Réaction au micro d'Europe 1.
C'est un chef-d'œuvre.
Pourquoi avoir attendu si longtemps pour aller le voir ?
Il y avait la queue tout le temps.
Ce qui vous a plu surtout dans ce film ?
Tout. Le rire de Mozart. Je trouve que c'était une trouvaille fantastique.
C'est mieux. Qu'en dites-vous ?
Alors précision aussi, il n'y avait pas d'animosité entre Mozart et Salieri dans la vie. Dans ses lettres, Mozart raconte même qu'il est allé chercher Salieri en carrosse pour l'emmener à la première de son opéra, La Flûte Enchantée, et que Salieri lui a fait de très beaux compliments.
Ah oui,
merci.
Le rire.
Dans le film. Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Nous sommes lundi, Dimitri.
Oui.
Qui dit lundi dit
nouveau cadeau.
Nouveau cadeau. Et toute cette semaine, Europe 1 vous offre un week-end pour deux dans l'une des quatre Thalasso Valdis Resorts Hotel Thalasso et Spa pour vous ressourcer, retrouver votre vitalité, évacuer votre stress. Bref, ça va faire du bien. Vous allez revenir tout neuf. Deux nuits, 8 soins bien-être face à l'océan. Vous irez soit à Roscoff en Bretagne, soit à Douarnenez, à Pornichet, Baie de la Baule en Loire-Atlantique ou encore à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Rendez-vous sur thalasso.com pour tout découvrir de ce cadeau. Et puis félicitations à Jean qui habite Bourges et qui remporte la croisière Croisi-Europe de la semaine dernière. C'est la première fois que Jean tentait sa chance au jeu de la matinale. Mmh. Il nous écoute depuis la rentrée. Jean, il fait partie de ses nouveaux auditeurs, alors on lui souhaite la bienvenue.
Ah
bienvenue
oui.
Jean.
Quel vénard ce Jean en tout cas. Alors si vous aussi voulez tenter votre chance, répondez à la question suivante. Quel est le nom du compositeur rival de Mozart dans le film Amadeus? Est-ce Salieri ou bien Verdi?
Et pour tenter votre chance, vous envoyez Thalasso par SMS au 739-21, 2 fois 75 centimes, plus coût du SMS, vous répondez à la question du jour et le tirage au sort aura lieu vendredi. Bonne chance. Je vous rappelle qu'à 8h10, Malika Sorel sera l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews.
C'est la nouvelle prise de guerre du Rassemblement National. Elle figure en deuxième position de la liste de Jordan Bardella aux européennes. Elle a choisi Malika Sorel, Europe 1 CNews, pour sa première prise de parole en tant que candidate. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure.
Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une, le plan Vigipirate rehaussé au niveau maximal. Urgence, attentat depuis hier soir. Conséquence de l'attaque ayant fait au moins 137 morts à Moscou vendredi. Attentat revendiqué par l'État islamique. Retour en cours sous haute surveillance ce matin pour les collèges et lycées des Hauts-de-France. Ciblé vendredi par des menaces d'attentat via les boîtes mail scolaires. On fait le point dans un instant. Comment stopper le trafic de cocaïne importé notamment depuis la Guyane? Elle inonde les grandes villes de la métropole comme Marseille ou Grenoble, où nous serons dans un instant. Et puis Emmanuel Macron justement est à Cayenne aujourd'hui pour tester le plan anti-drogue déployé depuis un an. Des gangs brésiliens tiennent le marché. C'est une information Europe 1.
Europe 1.
Le journal de 7h30 sur Europe 1. Nina Pavan, bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La mexicanisation ne touche pas que Marseille. Grenoble aussi est gangrénée par le trafic de drogue. Théâtre la semaine dernière d'une énième fusillade entre trafiquants en plein centre-ville dans le quartier Saint-Bruno. Un nouveau règlement de compte qui fait dire à certains habitants que ce quartier de Saint-Bruno est désormais un quartier sinistré. Reportage du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon.
Une grande place et un jardin d'enfants juste devant l'église Saint-Bruno. Voici le quartier de la drogue à Grenoble en plein centre-ville. Un quartier devenu impossible, décrit Nathalie, une habitante.
Ça devient grave. Dans les rues, il y a des revendeurs de drogue partout. Ils se cachent pas en plus, quoi. Ils sont dans la rue au vu de tout le monde. Hein. Tout le monde peut y aller et puis voilà, c'est tout. Ils ont les sacs à côté, il n'y a pas de souci, quoi, pour eux.
La fusillade de lundi a rappelé celle nombreuse de l'été dernier. Gaëlle, qui vient régulièrement dans le quartier, prend désormais ses précautions.
On a peur. On a toujours un regard derrière, devant, sur les côtés, et puis on fait attention. Ouais.
Les étudiants, eux, évitent Saint-Bruno, à l'image de Léa.
Le soir, on entend souvent des coups de feu, etc.
Des coups de feu?
Ouais, souvent. La nuit, faut faire attention, quoi. On passe pas par là.
Un quartier que ne reconnaissent pas André et Chris, qui y habitent depuis plusieurs décennies.
C'est affreux, c'est devenu affreux.
J'ai pas l'esprit libre dans le quartier maintenant, voilà.
On sort avec l'angoisse, ouais, c'est vrai. Je vois les petits jeunes dans la rue Aimé Beuré, qui est juste la rue là-bas. Ils planquent la drogue sous les pare-chocs. Enfin, il y en a un ou deux du quartier, ils doivent avoir 17-18 ans, sinon tous les autres, c'est tous des mineurs.
Ce qu'on raconte sur Marseille, je retrouve exactement la même description en fait.
Grenoble, un petit Marseille où les CRS sont présents depuis une semaine. Mais que va-t-il se passer quand ils partiront? Questionnent angoissés les habitants.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour lutter efficacement contre le trafic de drogue, encore faut-il en assécher la source. Et il en sera question aujourd'hui à Cayenne, en Guyane.
Emmanuel Macron et Gérald Darmanin attendus sur place pour deux jours de visite. Ce département, la Guyane, lui aussi miné par l'insécurité, les règlements de comptes sanglants et point de départ du trafic de cocaïne. Information Europe 1, ce sont d'ailleurs des gangs brésiliens qui orchestrent ce narcotrafic, William Molinier.
Leur spécialité, les meurtres, les braquages et les séquestrations. Les factions brésiliennes sont nées dans les sinistres prisons de Sao Paulo et gangrènent désormais la Guyane française. Le premier commando de la capitale, le PCC, recrute même parmi les gangs locaux. L'année dernière, les gendarmes de Cayenne ont interpellé 18 membres d'une branche du PCC qui s'était installée illégalement dans une commune côtière. Ils projetaient d'y commettre des vols à main armée et des meurtres. C'est à travers ces gangs brésiliens que le trafic de cocaïne prospère. Ils ont noué des contacts avec les cartels colombiens et les les distributeurs de la mafia serbe et italienne. Les enquêteurs français observent aussi qu'ils recrutent parmi la population guyanaise des jeunes désœuvrés utilisés comme des mules pour transporter la cocaïne jusqu'en métropole. Certains membres de ces factions sont actuellement derrière les barreaux au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, surpeuplé à 167%. Selon le renseignement pénitentiaire, 151 détenus sont de nationalité brésilienne, soit près de 15% de la population carcérale.
William Molinier.
Et vous écoutez Europe 1 Matin, il est 7h35.
Le Rassemblement National, toujours loin devant ses concurrents dans les sondages pour les élections européennes de juin prochain. 30% d'intention de vote selon un nouveau sondage IFOP pour le Figaro.
Le RN qui vient de signer une nouvelle prise de guerre pour le scrutin de juin. Malika Sorel, essayiste et ancienne membre du Haut Conseil pour l'immigration sous Nicolas Sarkozy, elle devient donc la numéro 2 de Jordan Bardella. Alexandre Chauveau, selon Malika Sorel, le RN est le seul parti, je cite, à défendre les intérêts supérieurs de la France. Alors avec ce ralliement, elle dit vouloir participer à la recomposition française.
Sa nomination est une surprise, même si son parcours et ses prises de position correspondent au discours du Rassemblement National d'aujourd'hui. Malika Sorel, née en France de parents algériens, a vécu une quinzaine d'années en Algérie avant de s'installer définitivement en France. Ingénieure de formation, puis diplômée de Sciences Po Paris, elle se distingue par ses écrits sur l'école et la défense de l'assimilation. Elle s'engage en politique au moment des émeutes de 2005 auprès de Dominique de Villepin. Deux ans plus tard, elle publie son premier livre, Le puzzle de l'intégration, où elle dénonce la culpabilisation des Français pour leur passé colonial et l'usage de la discrimination positive. En 2009, Nicolas Sarkozy la nomme membre du Haut Conseil à l'intégration, où elle développe des positions fermes sur la laïcité. Celle qui se voit, comme je cite, une intellectuelle en politique, soutient enfin François Fillon lors de la campagne présidentielle de 2017, jusqu'au meeting du Trocadéro, où elle apparaît sur scène juste derrière lui. Elle dit vouloir aujourd'hui lutter contre le chaos migratoire, sécuritaire et scolaire.
Alexandre Chauveau et Malika Sorel, qui est l'invité ce matin de Sonia Mabrouk dans la grande interview Europe 1 CNews, ce sera à 8h10. La France passe une nouvelle fois en urgence attentat niveau maximal du plan Vigipirate. Décision qui fait suite à l'attentat meurtrier qui a fait au moins 137 morts vendredi à Moscou, une attaque revendiquée par l'État islamique. Bien que le Kremlin continue d'accuser l'Ukraine, 4 des assaillants présumés de cette attaque sont placés en détention provisoire avant un procès.
Et puis aux États-Unis, Donald Trump a jusqu'à aujourd'hui pour régler 500 millions de dollars de caution.
Une somme nécessaire pour que l'ancien président républicain et candidat à un nouveau mandat puisse faire appel de sa condamnation pour fraude à New York. Sauf que Donald Trump n'aurait pas les moyens de régler cette caution, alors ses avocats ont déposé une requête. En attendant la décision, Aviva Fried, l'équipe de Donald Trump retient son souffle.
Oui, Donald Trump risque tout simplement de perdre tout ce qu'il possède. Sur la chaîne ABC, la procureure de New York, Laetitia James, a annoncé qu'elle n'hésiterait pas.
S'il n'a pas les fonds pour s'acquitter du jugement, nous demanderons au juge de saisir ses biens. Il s'est rendu coupable de fraude massive. Ce n'était pas une simple erreur.
La procureure devrait saisir les comptes bancaires de Donald Trump et mettre en vente ses biens immobiliers, mais elle pourrait tout de même attendre la réponse de la Cour sur l'éventuelle exemption de caution demandée par l'ancien président. Si celle-ci n'est pas accordée, eh bien Donald Trump pourrait aussi se déclarer en faillite, ce qui lui permettrait de ne pas payer, mais ce ne serait pas très bon pour son image de milliardaire à qui tout réussit et pour qui il faut donc voter. Sur son réseau social, l'ancien président a pourtant affirmé qu'il disposait de 500 millions de dollars en liquide, mais qu'il comptait les utiliser pour sa campagne. Ce n'est pas très crédible. Enfin, son réseau social pourrait être sa bouée de sauvetage. Donald Trump a annoncé sa prochaine introduction en bourse pour 3 milliards de dollars. Mais l'ancien président n'aura pas le droit de vendre ses parts avant 6 mois, ce qui sera bien trop tard.
Aviva Fried aux États-Unis. Pour Europe 1, un mot de rugby. L'Union Bordeaux-Bègles s'est hissée à la 3e place du top 14 en clôture de la 19e journée hier. Victoire 31-28 contre Toulouse. Les Toulousains restent donc 2e. Et l'indéboulonnable premier, c'est le Stade français.
Merci beaucoup Nina Pavan pour ce point rugby. C'était votre journal. Dans un instant, votre édito international. Pourquoi Vladimir Poutine ne croit-il pas que Daesh se trouve derrière l'attentat de vendredi au Crocus City Hall? On va en parler avec Vincent Hervouet dans un instant.
Très bon début de journée avec Europe 1. Il est 7h39.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Il est 7h42, très bon début de journée. Merci d'avoir choisi Europe 1. Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique sur Europe 1, nous parlerons du Rassemblement National, de ce qu'il est en train de réaliser. Et ça se voit à l'approche des élections européennes. Hein. Le ralliement, après celui des classes moyennes, d'une fraction des élites. On va voir ça avec Vincent Trémollet de Villers. Le club culture d'Europe 1 Matin. En ce lundi, on parle série avec vous, Héloïse Goua. Bonjour Héloïse.
Bonjour Dimitri. Vous vous rappelez de la série Doc qui avait cartonné sur le petit Grégory?
Absolument, oui.
Eh bien, les producteurs de ce programme s'attaquent cette fois à un autre scandale judiciaire, l'affaire Doutreau.
Nicolas Caro, le livre du jour. Bonjour Nicolas.
Bonjour, un roman noir badass écrit par deux maîtres du genre.
Ah, Tim Willox, j'adore. Merci, à tout de suite Nicolas. D'abord, l'édito international, comme chaque jour sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri.
Vincent, quelle leçon, quelles conséquences à l'attentat de Moscou?
Il faut d'abord prendre la mesure du deuil russe. Les terroristes ont obtenu ce qu'ils voulaient, un pays en état de choc. Ils ont fait 130 morts, comme à Paris en novembre 2015. 130 morts, c'est à peu près 1000 fois moins que le nombre de soldats tués sur le front ukrainien depuis 2 ans. Mais comme à chaque attentat de masse, comme ceux qui ont déjà eu lieu à Moscou, à Beslan, à New York, à Bali, à Delhi, à Madrid, à Londres, à Manchester, à Nice bien sûr, à Bruxelles, à chaque fois le pays reste sidéré, il ne s'y attendait pas. Alors qu'il aurait dû s'y attendre. Depuis la révolution islamique en Iran, le terrorisme islamique a fait 170 000 morts. C'est une guerre, elle n'a plus jamais cessé. C'est une menace beaucoup plus immédiate que la Chine, la Russie ou la Corée du Nord. C'est notre ennemi commun, mais ça ne fait pas de la Russie notre ami. C'est impressionnant que les autorités russes n'aient pas prononcé une seule fois depuis 3 jours le mot « terrorisme islamique », malgré la revendication répétée de Daesh et les aveux des 4 suspects. Avec ce déni, Vladimir Poutine ressemble aux dirigeants occidentaux qui ont tant de mal à nommer la réalité qu'ils évitent de regarder en face.
Mais le président russe préfère désigner l'Ukraine.
L'attentat djihadiste est un double défi. Il révèle l'aveuglement des services de sécurité que le président incarne aux yeux de tous, et son arrogance, puisqu'il a lui-même balayé l'alerte lancée par les services américains il y a 15 jours en parlant d'un chantage. On comprend que Poutine ait mis une journée à réagir. N'ayant pu éviter l'attentat, il tente de l'exploiter. Aux Russes traumatisés, il désigne un suspect familier. Ça rappelle José María Aznar accusant les Basques de l'OTA après les attentats de Madrid, alors que tout désignait Al-Qaïda, et ça lui avait d'ailleurs coûté sa réélection. Ça risque pas d'arriver à Vladimir Poutine, d'autant qu'il a offert un exutoire à la colère populaire. C'est le traitement sauvage infligé aux suspects aussitôt arrêtés. On doute que beaucoup de Russes aient eu de la compassion pour les terroristes que les agents du FSB ont soumis à la torture sur le bord de la route sans aucun complexe. Couper l'oreille et la flanquer dans la bouche du mutilé, découper la paupière d'un autre ou passer le troisième à la gégène. Les vidéos ont été tournées, mises sur les réseaux sociaux et les aveux commentés à la télé. Tout ça délibérément, avant de ramener les 4 hommes en ville et de les abandonner à la police pour un interrogatoire dans les formes.
Alors on accuse, Vincent, le Kremlin de fabriquer une réalité alternative, en somme des fake news. Hein.
Ben on a du mal à reconnaître des djihadistes dans ces mercenaires payés au lance-pierre pour massacrer les impies qui vont au concert. D'habitude, ils préfèrent mourir sur place et gagner le paradis d'Allah. Mais la revendication de Daesh n'est pas mise en doute par les spécialistes et les 4 hommes ressemblent, barbe pour barbe, aux tueurs qui se glorifient par avance de leurs crimes sur la photo diffusée par l'organisation. Vladimir Poutine aura du mal à démontrer l'implication des services ukrainiens parce qu'elle est improbable, mais il ne peut plus négliger l'autre guerre en cours. Depuis que les Américains ont déserté Kaboul, l'État islamique a prospéré, profitant de l'ouverture des prisons et de la fin de la surveillance. Ils étaient quelques centaines, ils seraient 2500. Ils se déploient désormais loin de leur base. En janvier, ils ont signé un carnage en Iran. En mars, des cellules ont été démantelées en Russie, mais aussi la semaine dernière en Allemagne. Daesh au Khorasan rêve d'un nouveau 11 septembre. Il y a de quoi électriser les services de renseignement. L'Élysée a réuni hier soir un conseil de défense autour d'Emmanuel Macron. On espère qu'ils ont fait le contraire de Poutine, qu'ils ont davantage parlé de la paix à assurer pour les Jeux Olympiques que de la guerre en Ukraine.
Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent, 7h47.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Le livre du jour, Nicolas Carreau, vous nous parlez ce matin d'une expérience d'écriture.
Avec ce roman à la couverture badass, un champ de tournesol au crépuscule, ciel orangé et une moto au premier plan, le Steve McQueen, c'est le titre chez Point. Mais regardez, il y a deux auteurs connus, oui. Le français Caryl Ferret de la série Noire et le britannique Tim Willox, auteur génial et à succès de La Religion ou Les Rois Écarlates. Bref, deux romanciers haut de gamme pour un roman, ils l'ont écrit en cadavre exquis, un chapitre chacun leur tour, avec la traduction simultanée de Benjamin Legrand pour la partie Tim Willox. Et oui, c'est fou.
Et qu'est-ce que ça donne?
Et ça commence très fort. Dans une vieille boîte de nuit pourrave de Manchester, au parquet qui colle dans une odeur de parfum périmé, avec une boule à facettes qui a perdu pas mal de ses petites mosaïques réfléchissantes, un qui n'a pas assez réfléchi en revanche, c'est un certain Declan, quand il s'est attaqué à Jed Mackey, le héros, un ancien de la Légion étrangère. Jed vient de le neutraliser avec ses copains, et c'est lui qui a gagné, mais Declan essaye de négocier, lui dévoile tout. Il lui explique que c'est Vogel qui lui a demandé de s'occuper de son cas, qu'il a été prévenu que Jed arrivait par un vol Ryanair en provenance de Bordeaux. Jed n'a rien contre Declan, il l'écoute pendant qu'il fouille les téléphones portables. Je ne vous dis pas comment se termine la conversation, mais Jed a autre chose à faire. De toute façon, il doit passer voir sa mère et sa fille. Des années qu'il ne les a pas vues. Ah oui, il y a Sol aussi, un ami de Jed, un Argentin à l'enfance difficile, bagarreur, désaxé, le genre de type qui, je cite, finissent au fond d'un trou creusé de leurs mains ou piqué d'héroïne, ce qui revient au même. Oui, mais Sol, c'est avant tout une oreille. Il aurait pu travailler dans les sous-marins, mais il préfère les coffres-forts. Il entend les engrenages comme s'il les voyait. Ils se sont rencontrés à la Légion, et après ça, ils ont constitué une association de malfaiteurs, si vous voulez, entre eux, c'est à la vie et à la mort.
Donc plutôt à la mort, si on a bien compris. Hein.
Elle rôde pas mal, effectivement, surtout quand le chef d'un gang lyonnais, Vogel, s'en mêle et quand Sol est kidnappé, ça finit d'agacer Jed, qui n'est pas du genre à laisser faire. Et puis il y a le Steve McQueen, il n'arrête pas de le mentionner sans nous dire ce que c'est pas l'acteur, évidemment. Mm-hmm. C'est une chose, un objet qui s'appelle le Steve McQueen. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous découvrirez. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a des reflets bleus.
Ah, c'est un bateau?
Non. C'est excellent en tout cas. Les deux écrivains s'amusent avec les codes du roman noir et de Dur à cuire. 160 pages, ça va à toute vitesse. On en reprendrait bien un deuxième tome si jamais.
Voilà, le Steve McQueen, donc signé Caryl Ferret et Tim Willox. Merci Nicolas Carreau. Héloïse Goy, la série de la semaine, vous nous conseillez. Alors c'est un documentaire sur l'un des plus grands fiascos judiciaires français.
17 adultes, dont 6 femmes et quelques notables, comparaissent pour viol en réunion sur 18 enfants.
Français, voici le titre de cette excellente série doc qui revient avec précision et pédagogie sur l'ouragan médiatique et judiciaire de cette affaire très très complexe.
Voilà, ou trop, hein, cauchemar français. Votre micro était pas ouvert, pas bien entendu. Rappelez-nous les faits rapidement, Héloïse.
En décembre 2000, 4 enfants accusent de viol leurs parents, Myriam Badawi et Thierry Delay, ainsi qu'un couple de voisins. Ces personnes reconnaissent les faits, mais très vite, ces petits garçons, suivis d'autres enfants, accusent également des dizaines d'adultes dont ils ont entendu parler, de près ou de loin. Parmi eux, une boulangère, un taxi, un couple de notaires. Tous ces adultes clament leur innocence, mais seront incarcérés plusieurs années. Le procès en appel de 2005 conduira finalement à l'acquittement de 13 des 17 accusés dans l'affaire.
Alors l'affaire d'Outreau, on la connaît bien en France. Qu'apporte ce doc en particulier?
Il expose plusieurs points de vue à travers des témoignages très puissants. Déjà, le juge Burgot, chargé du dossier à l'époque, c'est la première fois qu'il s'exprime depuis la commission d'enquête parlementaire en 2006. Oui, parce que je rappelle que ce juge est accusé d'avoir mené une enquête à charge. Et 18 ans plus tard, Fabrice Burgot semble toujours camper sur ses positions.
Vous vous posez plus de questions là-dessus? Vous voulez plus y penser?
Non, s'il y avait une pensée, c'est la pensée pour les victimes. C'est tout, le reste.
Il fait référence aux 12 enfants reconnus victimes, mais n'évoque jamais les innocents accusés à tort. Parmi les autres témoignages forts, il y a Jonathan Delay, le fils de Myriam Badawi. Lui maintient ses propos de l'époque, malgré l'acquittement de la plupart des accusés. Et puis, les avocats de la défense, comme Franck Berton ou Éric Dupond-Moretti, s'attardent aussi, très intéressant, sur la sacralisation de la parole de l'enfant à l'époque.
Si vous dites à l'enfant « qu'est-ce qui t'a fait, monsieur Untel ?», c'est pas la même chose que si vous lui dites « Est-ce que monsieur Untel t'a fait quelque chose ?» Il y a une forme de suggestion à laquelle il faut être extrêmement attentif parce qu'elle peut amener à un certain nombre de catastrophes.
Malgré les atrocités indicibles qu'il décrit, ce doc n'est pas voyeuriste. Prendre du recul calmement, minutieusement sur les erreurs de la justice pour mieux en tirer des leçons, c'est ce que nous proposent les 4 épisodes de cette série riche et passionnante.
Ouais, et troublante aussi également. Hein. Outreau, cauchemar français, c'est d'avoir donc sur Netflix. Merci beaucoup Héloïse Goy. Merci beaucoup les amis, à demain. Dans un instant, votre édito politique juste après le journal permanent sur Europe 1. Nina Pavan.
En Russie, les 4 assaillants présumés de l'attentat du Crocus City Hall qui a fait 137 morts au moins vendredi, placé en détention provisoire. Le Kremlin continue d'accuser Kiev malgré plusieurs revendications de l'attaque par l'État islamique. Conséquence de cet attentat, la France passe en urgence attentat niveau maximal du plan Vigipirate, annonce hier soir du Premier ministre. Rentrée sous haute surveillance ce matin dans plus d'une centaine de collèges et lycées de région parisienne et des Hauts-de-France, visés vendredi par des menaces d'attentats islamiques via les environnements numériques de travail des élèves. Ouverture aujourd'hui du site Un jeune, une solution pour les élèves de seconde en recherche d'un stage obligatoire au mois de juin. 560 000 lycéens concernés, toutes filières confondues.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa.
Bonjour, bonjour à tous. Vincent.
Vincent, dans un quart d'heure, invité de la grande interview Europe 1 CNews, Malika Sorel, dont vous avez choisi de nous parler ce matin, Vincent, parce qu'elle vient de rejoindre la liste de Jordan Bardella. Elle en sera la numéro 2. Quelle est la portée politique de ce ralliement, selon vous ?
Malika Sorel, c'est le nouveau butin du candidat cambrioleur Jordan Bardella. C'est une prise précieuse, hein, puisqu'elle remplit trois objectif, celui de la compétence. Malika Sorel est une intellectuelle reconnue très au-delà des sphères du RN. Celui de la respectabilité. Elle a exercé des fonctions au Haut Conseil à l'intégration. Enfin, et c'est peut-être le plus important, elle achève, après le ralliement de l'ancien patron de Frontex et de l'avocat Alexandre Varro, de donner à cette liste les couleurs de la droite. Elle a travaillé avec Dominique de Villepin, elle a soutenu Nicolas Sarkozy et François Fillon. C'est un changement d'époque, hein. Le RN, longtemps, s'est affiché comme ni de droite, ni de gauche. En 2022, il avait fondé sa stratégie sur la théorie des deux blocs de Jérôme Sainte-Marie, c'est-à-dire l'affrontement entre bloc populaire et bloc élitaire. C'était la forme élégante de la lutte des classes. Désormais, le parti de Marine Le Pen veut devenir la force politique centrale de la droite classique et populaire. Je vous rappelle que le président du RN, pour sa vidéo de rentrée au mois de septembre, avait mis en évidence l'ouvrage de Nicolas Sarkozy, « Le temps des combats ». Bardella rêve de faire l'alliance du pastis des campings et du spritz des rooftops, de la France de Nicolas Mathieu et de celle de Charlotte de Monaco, des ronds-points du périurbain et de la bourgeoisie à propriété. Ça s'appelle le RPR.
Mais ce n'était pas exactement le programme d'Éric Zemmour en 2022, Vincent ?
Oui, mais le patron de Reconquête a échoué à séduire les catégories populaires qui votent pour la marque Le Pen depuis des décennies. En revanche, il a obtenu les suffrages d'une partie importante du vote Fillon et en cela, il a fait basculer un électorat bourgeois dans des sphères politiques jusqu'ici frappées d'un interdit social. Et apparemment, les fillonistes y ont pris goût. Selon les sondages, 38% des électeurs d'Éric Zemmour en 2022 disent vouloir voter pour Jordan Bardella. On peut considérer que Reconquête a servi de sas de respectabilité entre la droite et le RN. Marion Maréchal met toute son énergie à contenir cette hémorragie, mais pour le moment, dans ce secteur de l'opinion, le phénomène Bardella est irrésistible. La trajectoire de Malika Sorel en est une nouvelle illustration.
Donc si je vous suis, Vincent, la droite LR est aussi directement menacée.
Oui, et tout le travail d'Éric Ciotti est de desserrer la tenaille formée par le RN et par Emmanuel Macron. Il le fait en arguant de l'expérience et de la compétence d'un parti qui compte encore des dizaines de parlementaires, des présidents de région, des milliers d'élus locaux. Retrouver les électeurs de droite, c'est ce qu'a tenté de faire François-Xavier Bellamy lors de son meeting samedi. Le philosophe s'est adressé directement aux électeurs de François Fillon pour leur dire qu'une droite sérieuse, travailleuse, consciencieuse, continuait à tracer son sillon au milieu du grand cirque narcissique qu'est devenu la politique. En résumé, il leur a dit « Vous ne me verrez pas en boxeur ni sur TikTok, mais vous me verrez toujours à ma tâche ». Son discours était de très haute tenue, mais son espace politique est très étroit. Très étroit, mais il existe. L'arrivée de la dette dans la campagne peut aider la droite à discréditer la majorité et à la renvoyer au déficit et à l'impôt, c'est-à-dire à François Hollande. Dans cette entreprise, LR a reçu le soutien inespéré de Valérie Ayé, la tête de liste Renaissance, qui se félicite d'avoir voté avec les socialistes 80% des textes à Bruxelles. Le vote sanction qui s'annonce contre le pouvoir offre aussi quelques ressources. D'autant que la force centrale ne tient plus que sur la fonction d'Emmanuel Macron et une sociologie rapetissée avec quasiment aucun jeune, très peu d'actifs et surtout des retraités. Le nouveau monde est devenu le monde d'hier. Celui d'aujourd'hui, et ce week-end politique en témoigne, se résume à une ambition pour Bardella comme pour Bellamy,
ramener la droite à la maison.
L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro ce matin, la Russie. On en parlait à l'instant avec Vincent Hervouet, frappé par Daesh. Poutine détourne sa riposte contre l'Ukraine. À demain, à demain.
Il est 7h57. Merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon début de journée. Nous sommes le lundi 25 mars.
Et nous fêtons l'annonciation, c'est-à-dire l'annonce par l'ange Gabriel à Marie de sa maternité prochaine. Nous sommes ainsi 9 mois pile avant Noël. Nous entrons aussi ce lundi dans la semaine sainte qui précède Pâques et nous sert à commémorer la passion du Christ. Les orthodoxes l'appellent la semaine des souffrances. C'est aussi la dernière partie du carême. Bon réveil avec Europe 1 dans la prochaine heure. Vous avez rendez-vous à 8h35 avec Philippe Val. Ce sera juste après l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, Malika Sorel, face à Sonia Mabrouk. Nous sommes le lundi 25 mars, il est 8h.
Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Des policiers devant des collèges et des lycées des Hauts-de-France et de régions parisiennes. Vigilance accrue ce matin suite aux menaces d'attentats reçues sur les boîtes mail scolaires des élèves en fin de semaine dernière. Europe 1 en direct de Lille dans un instant. La France en urgence attentat. 2000 militaires supplémentaires déployés dans le cadre de Vigipirate. Décision de l'Elysée. Hier soir après l'attaque meurtrière de vendredi à Moscou revendiquée par l'État islamique. La Guyane, elle attend Emmanuel Macron de pied ferme au cœur de la visite express du chef de l'État. La lutte contre le trafic de drogue. Et puis à 8h10, juste après ce journal, votre invitée Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invitée fait beaucoup parler d'elle depuis qu'elle a annoncé avoir rejoint la liste RN aux européennes. Malika Sorel, numéro 2 sur la liste de Jordan Bardella, essayiste désormais engagé en politique. Sa première interview tout à l'heure.
Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le relâchement aura été de courte durée. L'alerte urgence attentat levée le 15 janvier dernier est de nouveau en vigueur depuis hier soir. Décision du Conseil de défense et de sécurité nationale réunie à l'Elysée, alors que des menaces d'attentat ont été envoyées à des centaines de lycéens et de collégiens des Hauts-de-France ce week-end. Bonjour Maximilien Carlier.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des correspondants d'Europe 1 dans le Nord, en direct du collège Carnot de Lille, dont les élèves et enseignants ont reçu ces mails de menaces. Et ce matin, le dispositif de sécurité a été renforcé aux abords de l'établissement.
Effectivement, 5 policiers sont juste devant l'établissement, contrôle des sacs systématiques, une cellule psychologique a été mise en place pour rassurer enseignants, élèves, parents d'élèves. Fanny est venue accompagner sa fille au collège Carnot.
Je trouve ça très anxiogène comme situation. Bah, on a envie de venir déposer ses enfants dans un lieu où ils vont apprendre et ils vont découvrir de nouvelles choses. Et on n'a pas envie de venir les déposer le matin avec la boule au ventre parce qu'on a reçu des messages difficiles pendant le week-end. Mais je dois dire que la direction de l'établissement fait vraiment bien les choses. Encadre bien les enfants et gère aussi bien les parents.
Et la messagerie utilisée par les élèves et enseignants a été piratée ce week-end et donc désactivée par le rectorat. Des parents ont décidé de porter plainte. Une quinzaine d'établissements de l'Académie de Lille a été touchée par ce message particulièrement menaçant.
Merci beaucoup Maximilien Carlier en direct du collège Carnot de Lille pour Europe 1.
L'alerte urgence attentat donc rehaussée après l'attaque de Moscou revendiquée par l'État islamique.
137 morts, au moins 182 blessés, l'attaque la plus meurtrière revendiquée par Daesh sur le sol européen. Sébastien Lebelzig, bonjour.
Oui, bonjour Fanny, bonjour à tous.
Spécialiste des questions internationales à la rédaction d'Europe 1, hier au terme d'une journée de deuil national en Russie, les 4 assaillants présumés ont été présentés à un juge. Ils viennent de passer leur première nuit en détention provisoire.
Oui, des suspects que l'on a vu le visage tuméfié, hein, amené dans la salle d'audience, menotté, plié en deux par des policiers, assis dans une cage en verre. Des images abondamment diffusées par les médias russes, des médias qui reprennent en boucle le récit officiel, hein, celui d'une responsabilité de l'Ukraine dans cette attaque. En Russie, par exemple, personne n'a diffusé la vidéo de revendication de l'État islamique qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que 3 des suspects au moins sont de nationalité tadjik. Le Tadjik qui est une ex-république soviétique d'Asie centrale à majorité musulmane. C'est aussi ce pays, hein, qui est le principal fournisseur de main-d'œuvre immigrée en Russie. Il y a 10 millions de ressortissants des pays d'Asie centrale, hein, en Russie. Certains sont envoyés se battre en Ukraine. Les tueurs présumés, en tout cas, tentaient, selon le gouvernement russe, de rejoindre le territoire ukrainien. Alors, comment Poutine va-t-il réagir? C'est toute la question, hein, ce matin. Le régime russe reste obnubilé par la guerre en Ukraine, ce qui, selon certains, a rendu la Russie vulnérable. vulnérable à de véritables attaques terroristes sur son sol.
Sébastien Lebelzik.
On vous écoutait Europe 1 matin, il est 8h05.
Des opérations PlaceNet XXL partout en France ce matin, c'est l'annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
Oui, à Marseille où elle a débuté il y a tout juste une semaine, cette opération anti-drogue d'ampleur a permis plus de 230 interpellations selon le ministre de l'Intérieur.
Donc Marseille, mais aussi depuis ce jour Lille, Nantes, Grenoble ou bien encore Rennes, quartier du Blône, sans doute l'un des secteurs les plus rentables de Bretagne pour les trafiquants.
Une dizaine de points de deal au milieu des 17 000 habitants terrifiés qui n'en peuvent plus. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard.
Les habitants, on leur prend le portable des mains pour savoir s'ils ont pris des photos des dealers, etc.
Les dealers, on ne les voit pas, mais on entend clairement les guetteurs, ceux qui, d'un cri, donnent l'alerte lorsque la police patrouille, comme ici. En pleine journée, à quelques mètres d'une école remplie d'enfants, cette scène est devenue tristement banale dans ce quartier placé sous la coupe des trafiquants. David Levaux est secrétaire Bretagne Unité GP Police, force ouvrière.
Vous avez des contrôles d'identité à l'entrée de votre immeuble pour savoir si vous êtes bien d'ici.
Surréaliste et paradoxal aussi, car ceux qui contrôlent ne sont pas du coin.
Depuis quelques temps, on a des individus qui viennent de l'extérieur. On a 1h25 de Paris. Pour quelqu'un qui est de la Seine-Saint-Denis, il dit bah pour moi, Rennes, il y a moins de policiers. Donc ils viennent se mettre au VRSI, à qui on leur paye l'hôtel, qui vendent le stup et qui retournent à Paris.
Et au-delà de cette mise au vert, il y a surtout la du gain dans cette zone très lucrative qui comprend plus d'une dizaine de points de deal.
On trouve des fois des livres de compte avec des 16 000 euros par jour pour un dealer. On se retrouve avec des individus armés de kalachnikov, hein. Ça découpe un corps en deux, hein, en rafale.
Et au milieu, des habitants qui vivent terrorisés, comme il y a deux semaines lorsqu'une fusillade a éclaté en pleine nuit. Pas de victimes, c'est un miracle, mais des balles perdues venues se loger dans au moins deux appartements.
Charles Guyard.
La drogue et l'insécurité, fléau également en Guyane, où se rend aujourd'hui Emmanuel Macron.
Le chef de l'État va d'abord visiter le dispositif de contrôle renforcé mis en place à l'aéroport de Cayenne pour lutter contre les mules. Elles étaient une trentaine sur chaque vol à destination de Paris en 2022. Trafic qui aurait baissé de 60% grâce à ces contrôles. Mais les trafiquants ont d'autres routes, comme les bateaux du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, ce que dénonce Ivan Goua, porte-parole de l'association Trop Violence ce matin sur Europe 1.
Une fois, par hasard, ils ont eu un cas où apparemment un colis est tombé de l'un des bateaux là, du CNES, là, de la fusée Ariane. Par hasard, le truc est tombé, donc on a su que, voilà, mais comme, ça faisait combien de temps ou combien de colis sont passés par ne serait-ce que par exemple le CNES, qui sont les salir, hein, est forcément sujet aujourd'hui à ce que les trafiquants puissent trouver le moyen de passer par là. Ils ont intercepté et interpellé 10 policiers de la police nationale de Guyane qui participaient au trafic, 10, fin 2023. On n'en entend plus parler. Donc, ils avaient même réussi à infiltrer la police nationale. Et là, on nous fait croire, avec le 100% contrôle, que c'est au niveau de l'aéroport que ça va se régler.
Ivan Goua, porte-parole de l'association Trop Violence, invité d'Europe 1 matin. Interview complète à retrouver sur europe1.fr. La Caraïbe et la situation d'Haïti de plus en plus inquiétante. Hier, le Quai d'Orsay a commencé à rapatrier les Français les plus vulnérables via des vols affrétés par le ministère des Armées. Cependant, l'ambassade de France à Port-au-Prince reste ouverte. L'actualité internationale, c'est aussi l'élection présidentielle au Sénégal. Le candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye est proche de la victoire. 7 des 17 candidats l'ont déjà félicité, mais les résultats officiels sont attendus dans la semaine et le parti au pouvoir assure qu'il y aura un second tour.
Le football et les Bleus à Marseille pour affronter demain soir le Chili.
Oui, l'objectif, il est simple, hein, se remettre en selle après la cuisante défaite de samedi soir 2-0 face à l'Allemagne à 3 mois de l'Euro. Demain, c'est un match amical. Le Chili, adversaire moins prestigieux. Didier Deschamps a prévu une large revue d'effectifs. Seul le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, est assuré de rester à sa place.
Merci beaucoup Fanny Marceau. C'était votre journal et on espère que les Bleus vont relever le niveau après la prestation extrêmement décevante qu'ils ont proposée à leur public samedi. On en a beaucoup parlé dans le Club des Légendes avec Jacques Vendroux hier. Merci beaucoup Fanny. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, c'est l'événement politique du week-end. Malika Sorel, l'intellectuelle figure de la société civile, ancienne filloniste, rallie le camp de Jordan Bardella. Elle en sera la numéro 2 de sa liste pour les élections européennes et elle accorde sa première interview en tant que candidate à Sonia Mabrouk. C'est la grande interview Europe 1 CNews dans un instant. Il est 8h09 sur Europe 1.
Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Tout de suite, Malika Sorel est l'invitée de Sonia Mabrouk.
Bonjour Malika Sorel.
Bonjour.
Merci de votre présence et merci de nous accorder votre premier entretien sur CNews et Europe 1. Vous êtes essayiste, auteur de nombreux ouvrages. L'un de vos livres, Décomposition française, a d'ailleurs été récompensé d'un prix, on en parlera. Vous êtes aussi, Malika Sorel, une ancienne membre du Haut Conseil à l'intégration. Et depuis hier, vous avez donc rejoint la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella en position numéro 2. Alors je précise qu'on vous a aussi connu proche de la droite. François Fillon, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, et donc aujourd'hui vous rejoignez le RN. Est-ce que votre choix, Malika Sorel, marque une rupture idéologique avec la droite ou restez-vous ce matin une femme de droite?
Alors, bonjour. Je ne me suis jamais déterminée par rapport au clivage droite-gauche. Je m'inscris depuis le début, comme quelque part mon maître, Dominique de Villepin, au-dessus des clivages partisans. C'est l'approche gaulliste, c'est-à-dire De Gaulle disait « il n'y a pas de gauche en France, il n'y a pas de droite ». Et pour lui, représenter une fraction de la population était, le terme je crois, c'était un crime, une erreur impardonnable. Et donc c'est comme ça que je me vis. Pour moi, le fait que je rejoigne la liste portée par Jordan Bardella était une évidence.
Une évidence.
Mmh. C'est dans la continuité de ce que j'ai fait. Si vous vous souvenez, Marcel Gauchet, le grand philosophe Marcel Gauchet, avait dit à votre micro, le parti de Marine Le Pen, c'est un parti qui ressemble au RPF du général de Gaulle, qui est social et national. Je m'y retrouve pleinement, parce que je viens de vous dire, je suis gaulliste. Luc Ferry, le grand philosophe Luc Ferry, avait également dit que le parti du Rassemblement National était un parti de droite, républicain, populaire. Je suis dans cette continuité. Je voudrais également rappeler ce qu'avait dit Elisabeth Badinter, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé sur la laïcité, puisque nous étions ensemble pour défendre Natalia Baleato et la crèche Babylou, qui était un enjeu décisif pour la cohésion de la nation, cette défense de la laïcité. Et elle disait... Aujourd'hui, il n'y a plus guère que Marine Le Pen et Manuel Valls pour défendre la laïcité. Donc c'est tout à fait cohérent.
Évidence, dites-vous, votre ralliement a fait réagir la droite, les LR, puisqu'hier, lors de l'émission Le Grand Rendez-vous, le président des Républicains, Éric Ciotti, a réagi, Malika Sorel, en dénonçant, je cite, de l'opportunisme et d'ajouter, écrire c'est bien, hein, puisque vous êtes essayiste, mais agir c'est mieux. Que lui répondez-vous ce matin?
Alors au vu des sujets que j'ai portés, que j'incarne, puisque le président Sarkozy, lorsqu'il m'avait décoré de la Légion d'honneur au Palais de l'Élysée, m'avait dit des mots qui pour moi m'engagent, m'obligent. Et il m'avait dit, Malika Sorel, vous êtes le symbole de l'unité et de l'universalité de la République française. Je considère aujourd'hui que l'unité est en danger. C'est pour ça que je m'engage encore davantage. Mais je suis très étonnée qu'Éric Ciotti n'ait pas vu à quel point j'ai déjà agi. S'il était intéressé par les sujets que j'ai portés, donc l'intégration culturelle, la question de la cohésion de la nation... C'est à ce titre-là que je conseillais François Fillon lors de la présidentielle de 2017. Il aurait su tout ce que j'ai entrepris. Par exemple, je vais citer parce que c'est vraiment à l'ordre du jour encore aujourd'hui, j'ai été auditionnée par Simone Veil dans le cadre de la commission de révision du préambule de la Constitution. Mmh. Et c'est grâce à moi que Simone Veil a refusé d'inscrire la diversité dans notre Constitution. Et tout cela pour préserver le caractère un et indivisible de la France. Et puis je rappellerai également, et là c'est comme incroyable qu'ils ne sachent pas cela, c'est que lors de la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, en quelques mois seulement, parce que j'avais corédigé la Charte des droits et des devoirs du citoyen français, que nous avons immédiatement déployée avec le ministre de l'Intérieur Claude Guéant, nous avons fait chuter le nombre de naturalisations, car nous faisions désormais de nouveau coïncider la réussite de l'assimilation avec l'octroi de la nationalité française.
Vous venez d'évoquer, Malika Sorel, votre parcours, vos réalisations. Votre ralliement a suscité quand même beaucoup de réactions. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter, avant d'aller sur le fond, votre rapprochement avec le Rassemblement national? Vous dites que c'est une évidence, mais qu'est-ce qu'il y a d'évident? Quel point commun entre vous et Jordan Bardella, par exemple?
Alors, je vais vous répondre, je vais rajouter un seul point qui, moi, et le point qui m'a le plus heurté dans la bouche d'Éric Ciotti, c'est lorsqu'il a dit qu'il a justifié le fait que je ne sois pas chez eux parce qu'il avait fait le choix de personnes enracinées. Et en tant qu'enfant de l'immigration, je l'ai pris comme une insulte.
Une insulte, dites-vous ?
Absolument. Et puis, quelque chose d'incroyablement injuste qui montre que pour certaines personnes, quoi que fassent les enfants de l'immigration, ils ne sont pas considérés comme français. De quel enracinement parle-t-il alors que, comme l'avait dit le président Sarkozy, je suis moi-même le symbole de l'unité.
Alors c'est intéressant parce que certains qui commencent quand même à critiquer votre ralliement estiment que vous, comment dire, que vous apportez du crédit à la normalisation, à la banalisation, à la crédibilisation du RN et s'interrogent sur ce ralliement eu égard à vos racines, à vos origines. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Je réponds que, vu ce que je viens de vous dire, que le Rassemblement National est un parti qui accueille tous les Français de cœur et d'esprit, que c'est la seule approche. Et Jordan Bardella incarne justement le fait que tous ceux qui vont se reconnaître dans cette approche de Français par le cœur et l'esprit sont les bienvenus, et tous ceux également qui vont comprendre que l'heure est grave. C'est cela aussi que je veux
dire. C'est-à-dire l'heure est grave. L'heure si est vous grave. Deviez décrire la situation de la France, Malika Soral, ce matin on a appris d'abord qu'il y a un niveau d'alerte qui est relevé attentat, mais la situation plus profonde du pays, comment l'essayiste, l'intellectuel et maintenant la femme engagée en politique la voit ?
La France tombe.
Tombe.
C'est une réalité.
Mm-hmm.
La France tombe. Nous sommes confrontés à un chaos tous azimuts. Le chaos migratoire, le chaos sécuritaire, le chaos économique avec des fermetures d'entreprises chaque jour, le chaos financier. Rendez-vous compte, Sonia Mabrouk, lorsque François Fillon disait « Je suis à la tête d'un État en faillite », nous étions à 1200 milliards.
Ouais.
Je crois 1200 milliards.
Exactement.
En 2017.
Ouais.
Je crois que c'était en 2012, quand il est au tout début de...
2007, il y a, 2007, presque,
pardon,
il y a
2007,
15 ans, 17
voilà.
ans. Ouais.
Il disait 1200 milliards. Emmanuel Macron nous a amené à 3300 milliards de dettes. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il a obéré les marges de manœuvre de la société française. Comment pourrons-nous emprunter de nouveau demain ? Alors que si nous sommes dégradés en termes de notation financière, et c'est probablement ce qui risque de nous arriver en avril... Les taux d'intérêt vont augmenter, la dette, le remboursement de la dette coûtera plus cher. Et donc, ça augure d'un désastre à venir. Donc,
alors,
l'heure est grave.
L'heure est grave. Quel sursaut ? Dans les colonnes du Figaro, Malika Soral, vous affirmez que le RN est le seul parti capable, à vos yeux, de défendre les intérêts supérieurs du pays. Pour quelle raison ? Est-ce que vous pouvez nous citer une mesure phare, une proposition marquante qui conforte ce que vous dites ? C'est pas rien de dire que seul un parti peut relever le pays.
Oui, parce que c'est pour moi, aujourd'hui, le parti qui défend la liberté. La liberté d'être français, la liberté désormais de nouveau d'appeler les Français au vote, c'est-à-dire de leur dire « nous allons vous consulter ». Il y a également, à mes yeux, quelque chose qui est extrêmement important, c'est le fait que, et ça motive aussi mon engagement pour les européennes, le fait qu'en novembre 2023 a été voté au Parlement européen une décision qui est calquée sur le rapport Verhofstadt, qui fait qu'on transfère ce qui nous reste de souveraineté à l'Union européenne. Et en réalité, ce projet, qui aujourd'hui est un projet déclaratif, mais indique de manière claire...
Rien n'est définitif encore.
Absolument. Hein, mais là, nous avons quelque chose d'extraordinaire, c'est que ceux qui sont anti-européens nous disent voilà où nous voulons amener l'Europe de demain, c'est-à-dire la suppression des nations et la dissolution des peuples européens, ce qui... Sonia Mabrouk est totalement contraire au projet européen qui avait été voulu, parce que grâce au principe de subsidiarité, c'était le fait de traiter les sujets là où c'est le plus efficace, et avec ce principe de subsidiarité, de respecter l'identité des peuples.
J'entends. Donc vous vous engagez aussi contre, si je vous entends bien, l'Europe de Madame von der Leyen pour une autre Europe, et
absolument,
pour sauvegarder la France.
Pour l'Europe des nations, une Europe qui soit respectueuse des peuples, de leur identité, c'est bâtir une Europe où les nations, les peuples additionnent leurs forces et non s'annihilent. Et donc oui, je m'engage pour faire barrage et pour faire chuter la commission von der Leyen et l'Europe de Macron, c'est-à-dire celle qui veut effacer les peuples européens. J'estime pour ma part, et je l'ai toujours écrit, et c'est valable pour tous les pays du monde, on ne bouscule pas des peuples sur leur territoire parce qu'il y aura des conséquences tragiques. On le voit aujourd'hui. Et je veux dire aussi également qu'il y a un sujet qui, moi, m'importe, puisque j'ai fait partie d'un conseil d'administration de géopolitique et de questions de défense pendant des années aux côtés de personnalités comme Xavier de Villepin, qui était président des affaires étrangères au Sénat. Je suis effrayée par la rapidité avec laquelle une partie des élites occidentales ont ligué une partie du monde contre l'Occident. Je peux parler du Sud global. Je veux participer à faire qu'une partie des élites européennes arrête avec une forme d'arrogance.
Vous estimez que les élites, comme vous les appelez, qui est un terme large, générique, a contribué à la chute, pour reprendre votre mot, à la France qui tombe ?
Absolument. Absolument. Ils ont non
les
seulement participé, mais ils accélèrent.
Les élites économiques, les élites médiatiques.
Absolument, je les cite. Dans mes livres, je parle des élites de commandement, artistiques aussi.
Vous n'êtes pas, qui manipulent. Pas partie de cette élite, Malika Sorel, vous-même ?
Je dis toujours une partie des élites. Bien entendu, je fais partie de ces élites. Ça fait partie de mon parcours, puisque vu que je viens d'Algérie, j'ai fait des études en Algérie, je suis venue en France, je suis redevable pour tous ceux qui m'ont accompagnée depuis ma naissance, pour être ce que je suis aujourd'hui, une femme qui souhaite s'engager pour faire aussi qu'on entende de nouveau la voix des peuples.
Je vais rappeler votre parcours, hein. Vous l'avez dit, vous êtes d'origine algérienne, vous avez vécu 15 ans en Algérie, vous vous êtes installée définitivement en France, vous êtes diplômée en tant qu'ingénieure de l'école polytechnique d'Alger, vous êtes major de promotion d'un MBA à Sciences Po Paris. En 2009, interrogée dans le Figaro, vous dites, Malika Sorel, je vous cite, « La non-assimilation aboutira à la mise en minorité des idéaux français sur notre propre sol. » Alors, mise en minorité, eh bien, ça renvoie à substitution et même à remplacement. Est-ce que vous reprenez la thèse d'Éric Zemmour ?
Ce qui nous arrive, Sonia Mabrouk, j'ai été aux premières loges au sein du Haut Conseil d'intégration pour observer ce processus qui, je veux le dire, est le même en cours qui est en train de s'opérer dans tous les autres pays européens. Et c'est pour cela que dans tous les autres pays européens, mais également au Canada, parce que nous étions en contact avec nos correspondants dans les autres pays, au niveau du Haut Conseil d'intégration, tous les peuples aujourd'hui s'aperçoivent du fait qui sont progressivement mis en minorité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce qui se passe, c'est que le projet de société, il se repose, il est posé sur un socle de principes et de valeurs fondamentaux. C'est ça qui structure l'identité des peuples. Et c'est le résultat d'un long processus historique, politique. Il y a une dimension religieuse également. Donc, si vous en arrivez à avoir un flux migratoire extrêmement important, l'INSEE nous dit qu'en 2017, 44% de la hausse de la population en France était le fait d'immigrer. Si l'intégration culturelle se passe, c'est-à-dire que nous partageons les mêmes définitions de liberté individuelle, d'égalité, égalité homme-femme, de fraternité, fraternité qui transcende les convictions religieuses et le respect de la laïcité, il n'y a aucun problème. Attendez. C'est une question culturelle.
Donc, si ce n'est donc pas votre approche n'est pas, ethno-raciale, elle est culturelle. C'est important quand même.
Mais absolument. Et d'ailleurs, je souhaite dire à ce titre que le général de Gaulle, et j'ai posé la question à son petit-fils, qui avait échangé longuement avec son grand-père, lui demandant, pouvez-vous, selon vous, pensez-vous que votre grand-père aurait pu dire « La France est une nation de race blanche, ce qu'Alain Perfit a dit, et de religion chrétienne,
etc. » Rapporté dans son livre, Alain Perfit, oui.
Et le petit-fils du général de Gaulle est formel, jamais son père a eu une approche par l'ethnie ou par la race ou par la religion. L'approche du général, c'était celle que nous voulons porter avec Jordan Bardella, celle des Français de cœur et d'esprit.
Alors, je comprends. Mais alors, est-ce que l'immigration considérée comme étant de masse, si je vous entends bien, empêche l'intégration culturelle? Et si oui, alors il faut faire quoi?
Alors, bien entendu, l'importance des flux migratoires, en particulier lorsqu'ils étaient en provenance de nations qui renouaient avec la religion comme principe organisateur de la cité, entrave l'intégration culturelle et donc ruine la possibilité de toute assimilation. Parce que nous avons eu reconstitution des sociétés d'origine sur le territoire. Je vous ai parlé de liberté individuelle. Il y a des cultures qui ne reconnaissent pas la liberté individuelle. Donc la personne qui arrive ne pourra pas se sentir libre et avoir toutes les marges de manœuvre pour pouvoir s'intégrer culturellement parce que le groupe dépossède l'individu et le dissuade de le quitter. Il faut relire, parce que c'est dans la documentation française, tout ce que j'avais dit à Simone Veil, qu'il avait alerté, et je lui disais le risque principal contre lequel nous devons lutter, c'est la libanisation de la France.
Libanisation de la France, vous l'avez dit dans les colonnes du Figaro, l'expression est forte. J'entends que Malika Sorel, vous employez de manière presque indiscriminée, assimilation ou intégration. Est-ce que c'est la même chose que j'ai lu que pour vous, l'assimilation ne peut pas être imposée car elle a trait au registre moral et affectif. Alors, au sein du Rassemblement national, qu'est-ce que vous allez défendre comme modèle? Un modèle d'intégration à la française, culturellement?
Alors moi, ce que je vais défendre, et je vous remercie de le dire, c'est le fait que d'abord, l'assimilation ne peut être imposée. C'est véritablement un choix personnel qui est douloureux. Il ne faut pas se voiler la face parce qu'on ne peut pas dire à ses propres ascendants, à ses parents, grands-parents, voilà, je vais épouser un autre destin que celui du peuple de mes ascendants sans qu'il y ait des souffrances. Donc il faut tout faire pour ne pas entraver l'assimilation. réduire les flux migratoires, donc lutter contre le pacte migratoire européen qui tout de même est effrayant, c'est-à-dire que l'Europe n'a plus ni porte, ni frontière, ni toit. On accueille et on ventile dans les campagnes européennes. Ça n'a aucun sens. Il faut mettre un coup d'arrêt à cela et il faut tout faire pour permettre l'intégration culturelle, c'est-à-dire l'appropriation des principes et des valeurs de la société d'accueil.
Pas ce défi, mais évidemment l'école, l'éducation, tout
absolument,
ce que vous développez dans vos livres. Pour conclure, Malika Soral, que va changer finalement une intellectuelle, une essayiste comme vous en politique? J'ai noté il y a quelques années, vous aviez répondu sur votre priorité si vous étiez, et la question vous a été posée un jour présidente, et vous avez parlé, d'ailleurs ça rejoint ce que vous dites tout à l'heure, de liberté d'expression.
Absolument.
En quoi c'est un... Alors on le comprend, mais je vous pose à vous la question, en quoi c'est important et ça structure un pays, une nation?
C'est fondamental. Parce que la liberté d'expression, le fait que l'on puisse s'interroger sur tout, s'exprimer, réfléchir sans tabou, sans borne, a un impact direct sur la liberté de création, sur la liberté d'innovation et de développement. Ça a des conséquences extrêmement importantes. Et donc, oui, j'avais répondu à Olivier Delagarde sur France Info. Il m'avait posé la question, vous, présidente, quelle serait votre première décision? Et j'avais dit, je sanctuariserai la liberté d'expression. Aujourd'hui, au travers des attaques qui sont menées contre la presse, c'est la démocratie qui est en danger. Je pense qu'il faut que les Français le comprennent. Le pouvoir devient fébrile, a peur, parce qu'il sent que le peuple se réveille. Et moi, j'appelle au sursaut, parce que je veux le dire, dans 5 ans, il sera trop tard. Il y a un compte à rebours.
Merci Malika Soral, c'était votre premier grand entretien. Merci de nous l'avoir accordé. Bonne journée, à bientôt.
Bonne journée, merci.
Merci Sonia Mabrouk et Malika Soral. Olivier Delagarde, il est sur Europe 1 désormais. Il est avec nous dans un instant. Et Philippe Val, comme chaque lundi sur Europe 1, 8h29.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est l'heure de vos signatures Europe 1 du lundi. Dans un quart d'heure, le zapping politique de Dimitri Vernet avec Emmanuel Ducrot. Nous parlerons de l'Europe rattrapée par le principe de réalité. Exemple avec l'industrie automobile, forcée au tout électrique par le pouvoir politique. On va voir ça. La revue de presse d'Europe 1 dans 5 minutes. Bonjour Olivier Delagarde.
Bonjour Dimitri.
Dans les journaux ce matin, à lire.
Le grand blues, celui des médecins, celui de certains politiques, celui même du pape. Et puis, je vous expliquerai que certaines erreurs sont rattrapables, mais à quel prix ?
On voit ça dans 5 minutes. Merci beaucoup Olivier. Mais d'abord, comme tous les lundis sur Europe 1, Philippe Val est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vous allez nous raconter une histoire dont personne n'a parlé, la collusion entre médias et islamisme, ça arrive.
Oui, c'est assez stupéfiant. La semaine dernière, je me suis emporté au sujet du journaliste de France Info, Jean-François Akili, mis à pied parce que soupçonné d'avoir imaginé, avant d'y renoncer, faire un livre d'entretien avec Jordan Bardella. Je m'étonnais de cette décision et de l'absence totale de la moindre trace d'un atome de présomption d'innocence pour un journaliste dont personne n'a jamais mis en cause la moralité. Or, même si cela m'est pénible, j'avoue que j'ai exagéré. Je dois dire que le cas Akili est une exception Radio France. La rédaction de France Inter est, en matière de présomption d'innocence, plus encore qu'un modèle, un émouvant exemple à méditer dans notre monde où la délation est en passe de devenir une discipline olympique.
Vous voulez dire, pardon, que la semaine dernière, vous êtes allé trop loin, Philippe?
Non, dans le cas d'Akili, pas du tout. Mais je donnais à tort l'impression que l'arbitraire était une généralité dans le service public, alors qu'il n'est qu'accidentel. Mieux, la présomption d'innocence y est tellement sacrée qu'on est prêt, pour la faire respecter, à prendre le risque de se tromper plutôt que de commettre une injustice.
Bon, avez-vous un exemple?
J'y viens. Vous connaissez sans doute l'émission de France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction. L'histoire se passe en 2022. Il est question d'embaucher une journaliste de Mediapart, Céline Martelet, pour faire un reportage à Idlib, en Syrie. Plusieurs confrères, spécialistes du Moyen-Orient, alertent le syndicat des journalistes, la société des journalistes, le secrétariat général de la rédaction et la direction de la rédaction de France Inter. La journaliste en question aurait des liens avec Daesh et serait mêlée à un transfert d'argent en vue d'exfiltrer de Syrie des femmes djihadistes et le terroriste français Maximilien Thibault. L'affaire est publique puisqu'en 2019 déjà, elle a fait l'objet d'un article dans le JDD et dans Le Monde qui rapporte sa garde à vue avec la DGSI sans la nommer,
mais en citant le JDD, ce qui témoigne de l'exceptionnelle délicatesse dont il faut créditer notre journal de référence, délicatesse dont le Monde a oublié de faire preuve pour Akili, soit par distraction, soit parce que son cas était plus grave. Chacun sait qu'il est infiniment plus compromettant d'avoir des contacts avec Jordan Bardella qu'avec Daesh.
Bon, et qu'est-il arrivé à Céline Martelet, la France Inter, a-t-elle renoncé à l'embaucher ?
Pas du tout. Les insinuations, les avertissements des collègues sont balayés d'un revers de manche et on signe un contrat en bonne et due forme à Céline Martelet qui part donc en Syrie pour le compte de France Inter. Elle en revient avec un reportage qui est diffusé le dimanche 24 avril 2022. Bah, on se met à la place des autorités de la rédaction de France Inter. Elle a le label Mediapart, qui équivaut pour le journalisme à celui du Port-Salut pour le fromage. Si c'est écrit dessus, c'est que c'en est. Un tel label, plébiscité par Sciences Po, ne pouvait qu'encourager à la présumée innocente. C'était un pari risqué, mais courageux.
Mais pourquoi le pari était-il risqué ?
Eh bien parce qu'il est perdu. Une dépêche d'AFP nous apprend que Céline Martelet, vendredi dernier, a été condamnée par le tribunal de Paris pour les délits susmentionnés. 12 mois de prison avec sursis et une amende de 10 000 euros à payer solidairement avec ses complices. Son avocate annonce qu'elle compte faire appel, ce qui lui permet à nouveau et à bon droit de bénéficier de la présomption d'innocence, bien qu'elle ait fini par reconnaître au cours de l'audience être sortie du cadre de son métier. C'est pourquoi j'en resterai là ce matin. Et quand je pense aux attentats perpétrés sur notre sol et qui ont fait 260 victimes depuis 2012, j'avoue que je cale un peu devant les différents usages de la présomption d'innocence au bénéfice du djihadisme dans le service public de l'information.
Histoire édifiante, signée Philippe Val. Merci beaucoup Philippe. Restez avec nous, on vous retrouve en tout cas lundi prochain, quoi qu'il arrive. Allez, Pascal Praud nous rejoindra dans quelques instants pour le sommaire de Pascal Praud. Et vous, de 11h à 13h sur Europe 1, c'est vous qui prenez la parole, chers auditeurs. Ce sera juste après la revue de presse d'Olivier Delagarde. À tout de suite.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Allez, très bon début de journée avec Europe 1. Je vous rappelle qu'il vous reste moins de 3 minutes, et oui, le temps file, pour tenter de gagner le dernier Samsung, le Galaxy Z Flip 5. Pour ça, c'est simple, vous envoyez Galaxy au 739-21, 3 fois 75 centimes plus qu'au du SMS. C'est le top jeu, et ça peut tomber à n'importe quel moment. Bonne chance, il est 8h41.
Conto, le compte pro qui simplifie toutes vos finances, vous présente la revue de presse.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, grosse fatigue. Hein ?
Cela fait déjà plusieurs mois que Sylvie Porteneuve a décidé de raccrocher, raconte le Midi Libre ce matin. Ne cherchez pas dans votre mémoire, vous ne la connaissez pas, mais son histoire dit quelque chose de notre époque. Il y a un peu plus d'un an, écrit Laurie Zénon, Sylvie Porteneuve, 40 ans, était encore médecin. Elle avait son cabinet à Poussant dans l'Hérault, qui tournait bien, trop même. Mais je n'arrivais plus à exercer en prenant le temps qu'il faut, explique-t-elle. 15 minutes par patient, je ne sais pas faire. Et puis la lourdeur administrative. Enfin, je n'arrivais plus à gérer le décès de mes patients, les diagnostics difficiles. Alors elle a décidé d'arrêter. Aujourd'hui, elle a ouvert une pension canine. Ses revenus ont été divisés par deux, mais elle ne regrette pas. L'année dernière, selon le Conseil national de l'ordre, 5400 médecins ont cessé leur activité. C'est un phénomène assez récent et bien réel, écrit le journal. Quand le mal est trop grand, certains sautent le pas et changent de voie pour renouer avec la sérénité, à lire donc dans le Midi Libre.
Vous nous parlez maintenant du Premier ministre irlandais.
Ou plus exactement de l'ancien Premier ministre, parce que mercredi dernier, Leo Varadkar a provoqué la stupéfaction en annonçant avec une réelle émotion dans la voix qu'il démissionnait. L'affaire est racontée dans La Croix. À 38 ans, il était le plus jeune Premier ministre d'Europe. Mais que lui est-il arrivé ? Scandale sexuel, abus de biens sociaux, pensez-vous ? Vous y êtes pas. Derrière les raisons personnelles et politiques qu'il a avancées de manière un peu sibylline, son entourage parle d'un homme épuisé. Les politiciens sont des êtres humains, nous avons nos limites. On donne tout jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, a-t-il finalement déclaré. Un de ses proches a évoqué aussi la toxicité des médias sociaux qui rendent le rythme implacable. Les commentaires anonymes en ligne allaient de l'insulte très personnelle à des menaces de mort.
Alors, grosse fatigue, disiez-vous. Allez, nous parlons du pape maintenant, Olivier Delagarde. S'agit-il d'un coup de fatigue ou d'autre chose ?
En tout cas, ce qui s'est passé hier est du jamais vu. Bizarrement, les lecteurs de La Croix ne trouveront rien dans leur journal, mais doivent aller sur le site pour en apprendre un peu plus. Hier, c'était le dimanche des Rameaux, l'un des moments forts de l'année liturgique qui ouvre la Semaine Sainte. Le pape présidait évidemment la grand-messe. Il devait même prononcer l'homélie dont le texte traduit en 8 langues avait déjà été distribué à la presse. Et puis au moment de prendre la parole, François a finalement décidé de se taire. Le sermon n'a même pas été lu par l'un des prêtres qui l'assistait, comme c'est souvent le cas quand il est trop fatigué, non. Au lieu de ça, un silence de 2 minutes qui s'est abattu sur la place Saint-Pierre. Le Vatican a tenu à préciser que cette homélie n'ayant pas été prononcée, elle est considérée comme n'existant pas, ce qui ne va pas étancher la curiosité des observateurs.
Un drôle d'histoire au Vatican. Sinon, qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin, Olivier ?
Eh bien, sans surprise, l'attentat de Moscou de vendredi. Vous lirez des reportages partout qui racontent la stupeur et le deuil des Russes ce week-end. Et pour masquer la faillite de ses services de sécurité, Poutine pourrait bien en profiter pour intensifier sa guerre contre l'Ukraine. Dans le Figaro, nouveau sondage concernant les européennes. Bardella est à 30, le candidat macroniste à 21. La France insoumise décroche 6%. Et puis, vous lirez également une interview de Malika Sorel, qui occupera donc la deuxième position sur la liste du RN. Elle était l'invitée d'Europe ce matin. Une surprise de trouver quand même cet intellectuel qui était jusque-là plutôt estampillé LR. J'ai travaillé avec Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy et François Fillon, rappelle-t-elle. Désormais, j'estime que le RN est le seul parti qui défend les intérêts supérieurs de la France. Mais on va terminer par d'autres revirements et changements d'avis. Dans ses pages santé, le Figaro consacre un long article au détatouage. Il faut savoir que 25% des moins de 30 ans sont aujourd'hui tatoués.
25%?
25% des moins de 30 ans.
C'est énorme.
C'est ce qu'explique Cécile Thibert. Et presque autant d'ailleurs qui, au bout d'un moment, ont des regrets. Du coup, les cabinets de détatouage ne désemplissent pas. On voit tous les jours des personnes qui souhaitent faire retirer le nom de leur ex, témoigne.
Ah oui, ça, c'est.
Comme les marins, il faut
pas faire ce genre de tatouage. c'est dangereux.
Témoignage d'un médecin qui veut garder l'anonymat. A priori, c'est pas Olivier Véran. Bon, mais sachez-le, c'est donc possible de vous faire enlever le Azemmour pour toujours que vous avez sur la fesse droite ou le dans le Mélenchon tout est bon que vous avez sur la fesse gauche. Ça se fait au laser.
Mais c'est ça fait mal.
Très bon, ça fait très mal.
Ça fait très mal.
Et ça vous coûtera, ma chère Anissa, 1 millier d'euros.
Mais vous connaissez, alors, vous avez expérimenté.
Songez-y avant, parce qu'il n'y a pas que les histoires d'amour. Les tatouages aussi finissent mal, en général.
Les histoires d'aller, les histoires d'aller.
Merci beaucoup Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1, comme chaque matin sur Europe 1, 8h40.
C'était la revue de presse avec Conto. Un compte pro et des outils adaptés aux PME pour la gestion des dépenses, la facturation et la comptabilité. Conto, c'est le compte pro qu'il vous faut.
Vous connaissez le rendez-vous désormais, c'est de 11h à 13h sur Europe 1 tous les jours. Vous prenez la parole avec Pascal Pro. Vous avez combien de paires de lunettes, Pascal Pro, là ? Vous avez changé en l'espace d'une minute ?
Mais Pascal, bon, je veux bien vous raconter ma vie, mais je n'ai pas de verre progressif. Donc j'ai des lunettes pour lire et des lunettes pour voir de loin.
D'accord.
Vous aimez les verres progressifs, vous ?
Non, je n'en ai pas. J'ai pas besoin encore. Mais ça viendra sans doute.
Je vous remercie de souligner mon grand âge.
Votre grande expérience. Votre grande expérience, Pascal.
Merci, c'est toujours un plaisir de venir à cette heure-là.
Donc là, vous voyez Charmy. Loin. Vous avez les lunettes pour voir.
Oh, je vois loin, cher ami. Croyez-moi. Oui. Actualité lourde avec la menace terroriste, vous le savez. Actualité triste avec la princesse Kate qui a annoncé son cancer.
Ah, Stéphane Bern sera avec vous tout à l'heure, d'ailleurs, je crois bien.
Exactement. Bah, vous me l'apprenez. Faut-il limiter sujet différent
plus léger. Vous parlez avec votre équipe, Pascal.
Je à 11h moins 5.
Il regarde l'horizon, pas tout faire.
Faut-il limiter. Ça dépend des lunettes, exactement. Alors, bon, puisque nous cherchons un sujet un peu plus léger qui vous concerne directement. Cher ami, avez-vous déjà eu une relation amoureuse au travail ? C'est le cas de près d'un Français sur deux, 46%.
Mais c'est pas vrai.
Ça, bah, c'est pas
46%.
Bah, c'est plutôt logique.
C'est là qu'on passe le plus
voilà,
de temps.
Voilà. Hein. C'est comme
oui, les gens dans qui les couples, on trouve sa compagne ou son compagnon sur le travail, mais ça sous-entend d'autres choses.
Parfois
là,
dans
ce
les
sondage.
Couples, j'entends dire il est parti avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. Bah oui, puisqu'il la voyait régulièrement. C'est plutôt logique de partir avec des gens que tu connais. Donc, quand tu vas au travail, bien évidemment, tu rencontres des gens. Tout ça me paraît. Et 80% déclarent que cette relation amoureuse a abouti à une histoire sérieuse. Donc ça, c'est un sujet un peu plus léger que nous pourrons
évoqué. Et puis on parlera de la santé du pape, puisque vous m'interrogez à 9h sur par quoi nous pourrons commencer. C'est vrai que le pape François est apparu fatigué. C'est la semaine sainte qui commence aujourd'hui. C'était hier, le dimanche des Rameaux. Donc je ne doute pas que nos débats subissent l'influence divine qui manque parfois le reste de l'année à nos échanges.
Et ben voilà, donc
la méditation.
Double ration de Pascal Pro, dès 9h lors des pros et à 11h.
C'est une manière de voir.
Pascal Pro et vous, 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé.
Allez, merci Pascal, pour voir loin.
Toujours un plaisir.
Toujours un plaisir.
Lunettes et esprit sain.
Emmanuel Ducrot, on va parler automobile avec vous ce matin. Jean-Dominique Senard, le président de Renault, a été auditionné la semaine dernière par la commission des affaires économiques du Sénat. Il a déploré qu'aucune étude d'impact sérieuse n'ait été réalisée avant qu'on interdise les voitures thermiques. Vous connaissez la date, 2035.
Oui, il n'est pas le seul dirigeant du secteur automobile à s'inquiéter de la faisabilité de la fin du moteur thermique. Lucas Di Meo, chez Renault, avec lui. Avant, le patron de Stellantis, Carlos Tavares, s'en est inquiété aussi. Volkswagen repousse la construction d'une usine de batterie en Allemagne. Mercedes explique qu'elle gardera le thermique plus longtemps que prévu. Les constructeurs sont échaudés par les errements politiques. Comme rien n'a été évalué, eh bien c'est le brouillard.
Mais pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle pas fait ses études d'impact qui permettraient d'y voir plus clair et peut-être d'identifier certains problèmes?
La première raison, c'est qu'elle a la fâcheuse habitude de penser qu'elle peut fixer un objectif sur un coin de table et que ça suffit à faire une politique publique, sans jamais se demander comment ni avec quels effets. L'intendance suivra, elle a fait exactement la même chose avec l'agriculture, on en a beaucoup parlé ici. La seconde raison pour avoir soigneusement évité l'étude d'impact, c'est qu'elle pressentait que les réponses obligeraient à confronter la pensée magique à la réalité. Une réalité qui supposait de tordre le cou à un certain nombre de dogmes écolos, et ça n'a pas bonne presse.
Alors quel dogme en l'occurrence ?
Il y a d'abord le dogme vert de la décroissance qui continue à façonner la pensée de toute une partie de la gauche européenne. Pour transformer le parc automobile, il faut construire des usines, de pièces, de batteries. Or, il est devenu quasiment impossible d'en implanter en France et dans toute une partie de l'Europe. Elles font toutes systématiquement l'objet d'opposition. Regardez ce qui se passe à Maubeuge avec un projet d'implantation d'une usine de batteries. Une étude d'impact, ça signifiait d'écrire noir sur blanc qu'il fallait de grandes usines ou alors renoncer à notre secteur automobile pour importer. Et tout ça, bien, c'est dur à assumer.
Oui, c'est inadmissible même. Est-ce qu'il faut aussi des métaux, il faut des terres rares pour faire de la voiture électrique?
Là encore, une étude d'impact, ça obligeait à dire la réalité aux citoyens. Ces métaux, nous devons les importer et donc signer des accords de libre-échange. Ou alors il faut recommencer à ouvrir des mines ici sur le sol européen. Regardez ce qui se passe dans l'Allier, où un projet de mine de lithium est extrêmement contesté. Comme la stratégie de la Commission européenne a plutôt consisté à exporter loin, très loin, les nuisances environnementales pour se donner bonne conscience, tout ça, ça ne colle pas avec le narratif. Les conséquences de l'objectif tout électrique sont dures à assumer face à l'électorat.
Et puis il y a la question de l'électricité pour faire tourner ces voitures électriques.
C'est ma préférée. La transformation du parc automobile implique une croissance très importante des usages électriques. Et ça ne s'accorde ni avec le discours sur le tout renouvelable, ni avec le discours sur la baisse de la consommation. C'est antinomique. Une étude d'impact sur la voiture électrique, ça a obligé à poser clairement la réalité. Nous avons besoin de produire beaucoup plus, de façon stable et de façon décarbonée. Et ça suppose une chose, du nucléaire. Ce nucléaire dont Ursula von der Leyen ne veut pas prononcer le nom. Et donc, on a laissé pourrir le sujet par simple peur d'affronter les chiffres et les faits. Et là maintenant, l'Europe est rattrapée par la réalité de ces hypocrisies.
Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. 8h52.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour à tous et sans plus attendre, on commence avec un jeu. Dimitri, Anissa,
oui.
Question simple, réponse simple.
Oui.
Quel est ce bruit? Anissa?
Ah, on dirait une voiture qui démarre.
Ah, non, y a un rire. Mauvaise réponse, c'est le rire de Gabriel Attal. Bon, c'est vrai que ça peut porter à confusion, mais c'est bien le Premier ministre Gabi qui a fait du porte-à-porte ce week-end avec Valérie Ayé.
Bonjour. Qu'est-ce qui se passe?
On vient pour faire le...
Valérie Ayé, enchanté.
Bonjour. C'est notre candidate pour les élections européennes, Valérie Ayé.
Ah oui, d'accord.
D'accord.
Ils ont vraiment sonné chez les gens comme ça qu'elle n'était pas prévue.
Vraiment.
D'accord.
Bon, franchement, il y a des Français qui ne passent pas des super week-ends. Hein, Pendant ce temps-là, la Macronie, elle, s'est pris de sacrée droite. Éric Ciotti, François-Xavier Bellamy, Céline Imar, ils étaient tous bien en forme au meeting des Républicains pour les Européennes.
Monsieur Macron sera bientôt l'homme qui valait 1000 milliards de dettes.
Ils avaient promis que l'économie serait tenue, le Mozart de la finance. On a vu et on n'a pas été déçus.
Je suis fière, plus que jamais, de n'avoir jamais voté pour Emmanuel Macron. Ni en 2017, ni en 2022.
Oui, un meeting plein de punch. Au PS, on a donc tenté de faire la même chose hier, de les imiter. Oui, les socialistes étaient tous réunis autour de leur tête de liste, Raphaël Glucksmann, motivé, déterminé.
On va réveiller le phare. Vous êtes au phare. À Tournefeuille. À Tournefeuille.
À Tournefeuille. Bon, c'est vrai que ça ne fait pas rêver. Mais bon, il y a
c'est
les
parce
idées.
Parce que vous connaissez pas Tournefeuille.
Mais oui, je ne connais pas. Mais bon, il y a les idées. Il y a le projet tout de même.
Nous portons le projet d'une Europe qui se réveille, d'une Europe juste et forte, d'une Europe.
Qu'est-ce qui se passe?
Et voilà.
Ça part mal cette histoire. J'espère pour eux que Raphaël Glucksmann a relevé le niveau.
Quel plaisir de voir ce rose, de voir ce jaune mêlé. C'est nul.
Oh non. Non. C'est pas possible. Naufrage en vue.
Debout.
Pour l'écologie, pour la démocratie, pour la France. Et pour l'Europe.
Oh, j'y crois pas, il a attrapé le syndrome Valérie lui aussi. Bon, après, fallait s'y attendre, hein. C'est ça de voter comme Renaissance au Parlement européen. Et...
Voulons-nous laisser l'Europe aux ennemis de l'Europe?
Seul, je dis bien, seul rescapé sur ce bateau, Carole Delga. Ou pas.
Et une ville et une métropole à gauche, t'as autrement de gueule que quand c'est la droite.
Ouais, bon, je crois qu'elle a oublié Anne Hidalgo, Carole. Hein.
Aïe, aïe, aïe. Rien n'échappe, hein, Dimitri.
Ah oui, mais les zappings, mais les.
Des bons week-ends,
les week-ends,
hein.
Bah, y a les meetings, il se passe beaucoup de choses, donc c'est plus simple, c'est, faut le dire.
Vous n'étiez pas dans l'ambiance de la salle du phare à Tournefeuille, qui est une très belle salle. Et je peux vous en parler parce que je la connais.
On ira à deux, Dimitri, la prochaine.
Voilà, écoutez, c'est dans l'ouest toulousain, sachez-le.
Exactement.
Merci beaucoup, Dimitri Vernet.
À
votre
demain.
Zapping politique européen, on le retrouvera, bah, vous serez avec nous demain matin.
Mais bien sûr.
Et vous avez rendez-vous dans une demi-heure avec Culture Média et les invités ce jour.
Alors, premier invité média, Nathalie Lévy, qui est la voix d'En Aparté sur Canal+, qui vient vous présenter un nouveau programme de Canal+, inoubliable, Nos chers grands-parents, où des personnalités parlent de leurs grands-parents. Et puis Christiana Reali pour l'invité culture et une surprise musicale avec un coup de cœur qui viendra jouer en live.
Voilà, c'est à partir de 9h30 et l'info continue puisque vous avez rendez-vous avec Pascal Pro, l'heure des pros, dans un instant sur Europe 1. Bonne journée.